bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout en meilleure santé.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Voilà, et bien je crois qu'on est lancé avec Mickaël Gundil. Bonjour à tous et bonjour Mickaël surtout.
Ben bonjour.
Mickaël ou Jérôme, parce que je sais que tu t'appelles Jérôme en vrai.
Ben oui.
Ouais, comme moi. Donc ça nous fait déjà un premier point commun. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour, je sais pas qui ne connaît pas Mickaël Gundil.
Jérôme, bodybuilder depuis 1983, donc ceux qu'on fait mathématiques et pas bodybuilding calculeront le nombre d'années parce que ça change tout le temps, donc d'années de pratique de depuis 1983, j'ai commencé en septembre 83.
Et toi, tu te considères comme bodybuilder, pas comme chercheur, que pas comme
ouais, enfin je me considère rien du tout à vrai dire, mais tu sais, c'est juste des termes qu'on met.
Ouais.
Je suis juste moi-même, et c'est déjà assez compliqué comme ça, sans en rajouter.
Pourquoi c'est compliqué d'être Mickaël Gundil?
Bah, d'être soi, quoi. Il y a assez de merde dans la vie pour.
Ouais. Bon. Est-ce que tu te souviens de ta toute première séance de musculation?
Non, pas du. Enfin, la toute première, non. Bah, si, enfin, remarque, en y réfléchissant. Dans les premières, ouais, parce que j'avais rien. Donc, j'étais dans mon sous-sol. J'avais une caisse en bois, deux haltères de 2 kilos et une barre à mine. Donc, tu vois, c'était pas glorieux, quoi.
Et alors, comment t'avais fait? C'était quel programme que t'avais utilisé en premier? Est-ce que tu te souviens de tes premières?
Ma mère m'avait ramené un bouquin de la bibliothèque là où elle travaillait. Donc, pas de chance. Enfin. Après, il y avait pas grand chose à l'époque, mais c'était pas le meilleur bouquin du monde, mais bon, il y avait des programmes, et puis je suivais un programme, donc, qui faisait autant de séries pour travailler le cou que les biceps. Donc, déjà, tu sens que t'étais mal barré, quoi.
Pour travailler le cou?
Ouais, le cou, ouais. Ah ouais, non, mais c'était ardos, comme, ouais, fallait travailler le cou. Enfin, plein de trucs improbables, quoi, pour un débutant.
Ok. Et pourquoi travailler le cou alors? Parce que c'est un truc qui
j'aime pas, ça revient à la mode livre, ouais, non, mais à l'époque, j'en savais rien, mais il y avait deux exercices pour le cou, un pour les muscles gala et puis un pour devant. Donc, tu avais deux séries, je te dis. Il y avait presque même plus de travail du cou que des bras, quoi.
Ok. Et a posteriori.
Donc, là, c'était comme ça.
Ouais, maintenant, tu penses que c'était utile? Tu penses que c'est utile de travailler?
Ah, de travailler le cou quand tu débutes, c'est peut-être pas une priorité, quoi. Mmh. Surtout que tu. Ce que tu veux quand tu débutes, c'est de voir des résultats rapides.
Ouais.
Parce que c'est ça qui va faire que soit tu continues, soit t'abandonnes, quoi. Si c'est les résultats qui sont merdiques et qu'il n'y a rien qui vient, t'as de fortes chances de laisser tomber. Mmh. Donc, non, c'était pas génial.
D'ailleurs, je crois que je me souviens que je t'ai déjà entendu dire quelque part que si t'as pas de résultats, assez rapidement et surtout en étant explosif, en essayant d'aller vite dans tes répétitions, si t'arrives pas avec ça à construire suffisamment de masse musculaire, c'est qu'a priori c'est mort, ça viendra jamais.
Ah bah, de toute façon, oui, tu sais, déjà le mec qui a une génétique, déjà il est balèze naturellement, donc a priori il fait pas de muscu, donc déjà quand tu te dis tiens je vais faire de la muscu pour être plus musclé, déjà c'est que ta génétique elle est déjà pas terrible. Mais si en plus tu fais un mois de muscu, que ça te fait un peu chier, puis que tu vois pas de résultat, t'as de fortes chances de laisser tomber, quoi.
Ok, donc en fait, est-ce que globalement le mythe du débutant qui progresse très vite, toi tu le confirmes ou c'est vraiment sujet à variation en fonction des gens?
Moi, tu vois, en 35 etc. d'années, je n'ai jamais progressé très vite ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu des résultats très lents. Donc le mec qui explose dès le départ, tant mieux pour lui, mais moi ça m'est jamais arrivé. Mais comme j'ai commencé assez jeune, c'est pas un âge où t'exploses non plus. Parce que tu vois, pendant les 3, 4, 5 premières années, les résultats ont été lents. Ah, peut-être un tout petit peu plus quand j'ai atteint 18, 20 ans, mais j'ai jamais eu de résultat fulgurant, jamais.
Et c'est marrant pourtant.
Mais tant mieux, si le mec qui débute la muscu, il explose, mais tant mieux pour lui.
Oui,
mais...
Oui, non, mais moi non plus, ça n'a pas été mon cas. Il me semble pas avoir... j'ai jamais explosé tout court, d'ailleurs, j'ai jamais...
Moi non plus, donc tu vois, en 30 et quelques années...
ça donne de l'espoir à tous ceux qui s'entraînent, quoi. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils s'entraînent.
On peut ne pas exploser. Et c'est pareil, là, on voit les réseaux sociaux, etc. Mais tu m'aurais vu après 20 ans de muscu, tu t'aurais rigolé, quoi.
Après 20 ans de muscu, t'avais zéro
résultat. Après 20 ans de muscu, si j'avais... maintenant, à l'époque, on n'avait pas les moyens qu'on a maintenant, mais... Si on m'avait vu sur les réseaux sociaux après 20 ans de muscu, les mecs, ils se seraient marrés, quoi.
Ok. Alors, est-ce que déjà, ça tord peut-être le coup, ton cas, ton expérience perso, tord le coup un peu à l'idée reçue qu'on entend, qui est on atteint rapidement sa limite naturelle, entre guillemets, son niveau maximum, et ensuite on grappille quelques. Enfin, on grappille un tout petit
peu. Depuis le début, j'ai toujours grappillé.
Ta courbe n'a pas été, elle a pas tendu vers un plateau comme ça.
J'en sais rien. Tu sais, c'est les mecs qui essayent de verbaliser un truc qui est très individuel. Donc, c'est la meilleure façon de raconter vite des conneries, quoi, de généraliser un truc.
Bon, et plus on commence jeune, moi aussi, ça, j'ai entendu ça plusieurs fois, et je vais pas dire que je suis partiellement d'accord, mais presque. Plus on commence jeune, plus on se donne des possibilités, un potentiel en fait pour se développer.
C'est sûr, c'est certain. Par contre, pour plein de raisons, parce que tu vas tirer sur tes muscles pendant que tu vas, par exemple, sur tes biceps, tu vas leur tirer dessus, et pendant que tes os ils grandissent, donc je reprends. La longueur des muscles est déterminée beaucoup génétiquement, mais quelqu'un qui a fait de la muscu ou un sport très tôt pendant sa croissance, il va aussi modifier sa longueur de muscle, et en muscu, la prime est à celui qui a les muscles le plus longs par rapport à son ossature. Donc, il y a une énorme prime.
Toi qui as commencé jeune, alors, t'as réussi à...
C'est pas difficile. Enfin, ce que j'ai commencé le plus jeune, c'est l'aviron. Et c'est exactement, les muscles de l'aviron, c'est exactement ceux qui se développent le plus facilement. Et les muscles qui étaient pas du tout touchés par l'aviron, parce que contrairement à ce qu'on dit, l'aviron, c'est pas du tout un sport complet, je le sens, quoi.
C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu sens qui est en retard?
Pec, triceps,
Parce que l'aviron, tu tires beaucoup, hein. C'est beaucoup le dos, les épaules.
C'est ce qu'on dit rowing. Donc c'est biceps, dos, et puis quadriceps, quoi. En gros. Hein. Donc ça, c'est tous mes muscles qui
répondent bien.
Et puis les autres. C'est sûr que même ton ossature à lui tirer dessus, tu vois, un jeune qui ferait des tractions très tôt. C'est sûr qu'il finirait plus large d'épaule que ce que sa génétique lui donnerait s'il n'avait pas fait de sport.
D'ailleurs,
donc c'est certain que tu as une prime.
J'ai un exemple, je pense, qui est personnel, et je m'en suis auto-convaincu, et je pense que ça rejoint ce que tu dis. C'est que le premier sport que j'ai fait, c'était le tennis. Je suis droitier, alors je sais pas si c'est un lien, tu vas peut-être pouvoir me dire ou m'apporter une réponse sur ça, mais le tennis, il y a énormément de, il y a un pré-étirement du biceps, surtout sur les coups droits, qui s'étirent au niveau de l'épaule, au niveau du coude ici là, et je pense que ça ça a aidé à allonger le muscle, mon biceps droit, parce que comparativement à mon biceps gauche, mon gauche est très court. Je vais pas montrer,
faire
un double biceps, mais je passe 4 doigts sur le tendon à gauche et 2-3 sur à droite. Et je me demande si le tennis, le fait d'avoir eu cette pré-étirement, n'a pas allongé mon muscle.
Mais faut pas croire que c'est le mouvement qui allonge le muscle, c'est que tu étires beaucoup ton muscle alors que tu es en pleine croissance. C'est ça qui, parce que un gars qui refait ça, mais quand t'as terminé ta croissance, c'est mort. Hein. C'est juste pendant qu'on parlait jeune, je voudrais pas faire croire à tout le monde que tu après 15 ans, c'est mort, hein, quoi.
Ouais, c'est réglé, quoi.
Il reste plus grand chose à prendre jusqu'à 18 ans, quoi. Sauf si t'as une croissance tardive et puis tu te mets à grandir comme un malade à partir de 15 ans. Mais si t'étires ton muscle fortement alors que t'es en pleine croissance, tu vas finir avec un muscle plus long que... C'est logique.
Mais est-ce que il faut quand même qu'il y ait une résistance ou qu'il y ait une contraction associée n'importe quel jeune de 15 ans peut faire des étirements classiques et va s'allonger les muscles?
Ouais, non, mais... S'il y a étirement plus tension, c'est quand même mieux que des étirements. Tu vas d'étirement, tu vas te retrouver souple, quoi. Tu vas être une danseuse.
Ouais.
Mais non, il faut qu'il y ait de la tension. Mais il faut que la tension. Là, moi, je suis assez contre les mouvements à pleine amplitude. Mais quand t'es jeune, faut aller chercher l'amplitude plus que la. Enfin, faut une tension, mais mettre d'abord l'amplitude après la tension, alors que plus tard dans la vie, il faut mieux mettre la tension et moins d'amplitude.
Et plus tu vieillis, moins... De toute façon, on va y revenir les petites modifications qu'on doit faire sur l'entraînement pour essayer de se préserver.
Plus tu vieillis, plus tu te désagrèges. Hein. Tu vois, quand t'es jeune, tu te construis. Et puis après, c'est comme une pyramide. Hein. Tu montes.
C'est 30 ans.
Puis après, ça descend.
Est-ce que c'est 30 ans
je sais rien, moi, ça n'a pas été 30 ans, non. Mais ça doit être assez individuel. Peut-être 45. J'ai toujours été... De manière, j'ai toujours été en retard, moi, de toute façon, ou très lent au démarrage.
Bon, on a bien sauté dans le vif du sujet, dans plein de trucs, parce que direct, on parle entraînement, muscu, tout ça. Bon, parce que tu t'es présenté aussi comme un bodybuilder dans l'âme et depuis un paquet d'années. Déjà, ça fait plaisir de te recevoir, Michael Gundy, sur ce podcast, parce que tu as été beaucoup demandé. J'ai mis un petit peu de temps avant de t'envoyer un email. Pour te proposer de passer ici. Et j'ai fini par t'envoyer, alors c'était pas un mail, c'était un Instagram, parce que j'ai pas réussi à trouver ton email. Et puis t'as répondu assez vite, donc ça fait plaisir. Je pense que tout le monde va être content de pouvoir t'écouter. En plus, c'est sûr. Tous ceux qui sont sur YouTube, en plus, ils peuvent voir que tu t'es mis dans une position, t'es très très relâché. Non, mais ça fait plaisir.
Il est devant mon lit, donc je peux pas pousser les meubles pour.
Mais je t'avais vu comme ça sur les podcasts de
Ah oui, parce d'IT. Que comme mon ordinateur, il est devant mon lit, donc.
Ce qui est assez marrant. Et puis il y avait quelques commentaires qui disaient, si tu savais à quel point je m'en fous, on fait du podcast, donc c'est de l'audio. Moi, j'invite tout le monde à écouter les podcasts sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes, parce que sur YouTube, c'est un peu moins dynamique. Mais sur les podcasts que tu avais fait avec Aiki de Cher Fitness, où t'étais un peu allongé comme ça, il y en a qui disaient ouais, c'est pas respectueux de se mettre comme ça. C'est, moi, connaissant le loustique, je pense que.
Faudrait que j'ai la tête, vers le bas ou pour être respectueux. Mais je peux pas faire autrement, à moins de tout pousser.
Non, mais ça me va très bien.
Très inconfortablement.
Tu te mets à l'aise, tu te mets comme chez toi, c'est très bien. Donc bodybuilder certes, mais auteur aussi, parce que peut-être que tous ceux qui écoutent, ils le savent, mais t'as écrit des bouquins avec Fred Delavier que j'ai reçu il y a quelques semaines sur le podcast. T'as participé à des magazines aussi, enfin t'as écrit des articles pour des magazines.
Donc dans l'ordre, c'est les magazines d'abord, et les livres.
Et les livres après. Ouais. Donc bon, ton parcours, tout ça quand même, il est, je pense qu'il y en a certains. Ils sont intéressés. Tu as commencé le bodybuilding donc assez jeune, avec les programmes que tu as trouvés. D'ailleurs, il n'y avait pas Internet, le programme que tu
as trouvé. Non, c'est pas qu'il n'y avait pas Internet, mais il n'y avait pas non plus des millions de bouquins de références que tu pouvais avoir, parce qu'à l'époque, pour comment tu connaissais l'existence des bouquins de musculation? Bah, tu pouvais pas. C'était soit tu allais chez un marchand de livres et puis il y en avait un, et puis c'est comme ça que tu faisais connaissance. Moi, ma mère, je te dis, elle a regardé dans sa bibliothèque, enfin non, pas là dans la sienne, mais là où elle travaillait, et puis elle m'avait ramené ça devait être le seul bouquin de muscu qu'il y avait dans la bibliothèque. Bah, c'était Marcel Rouet, ouais, je sais pas comment ça s'appelait, mais un livre de Marcel Rouet, bah c'était la grande star de l'époque d'après-guerre, disons.
Quand tu découvres ça, t'as envie de te lancer dans le métier? Enfin, tu te vois en faire pendant des vingtaines, des trentaines, quarantaines
Ah bah
d'années?
oui, enfin moi j'étais parti pour un long, ça c'est sûr, mais je pensais pas en faire ma.
Ta vocation.
Bah, de toute manière, quand on me demandait à l'époque qu'est-ce que tu veux faire quand t'es grand, et d'ailleurs tu me le demandes aujourd'hui, j'en sais pas plus. Donc ça donne espoir à ceux qui n'en savent rien de ce qu'ils veulent faire plus tard dans la vie, mais non, je me suis jamais projeté vraiment beaucoup dans l'avenir. Mais c'est sûr que je voulais poursuivre la muscu longtemps.
Mais c'est assez curieux parce que tu fais partie de l'une des personnalités dans le milieu de la musculation, du fitness. Je sais que t'aimes pas ces mots, hein, fit game, tout ça. Bon, tu fais pas partie du
Bah
fit
non,
game,
parce
mais
que
tu
moi
vois.
je suis juste moi, après
Mais
c'est.
non, mais tu vois un peu l'univers de la muscu, du sport.
Ouais, mais alors pas du tout, ça n'a rien à voir avec celui qui me décrit, mais.
Vas-y,
Donc
décris-moi
tu vois,
alors.
moi l'univers de la muscu, c'est les mecs qui font Olympia, quoi, en gros. Donc
Alors,
après tout le reste.
tu te considères dans quel univers et
Bah dans celui-là, enfin je veux dire dans celui-là, dans les. Alors, je voudrais pas dire que je vais préparer Olympia, hein, mais c'est plus, bah, de toute manière, comme il y avait que ça à l'époque à regarder, moi je suis parti de là et j'ai pas dérivé depuis, quoi.
et
Il n'y avait
c'est
pas tous les charlots qui se sont greffés après dessus, fitness, etc. Donc, ça n'est pas, pour moi, ça n'existe pas. Les mecs peuvent m'en parler, ça me passe au-dessus de la tête. Pour moi, il y a Monsieur Olympia et puis c'est tout.
Et quand tu as 18-20 ans, enfin, comment est-ce que tu as déjà fait un autre métier? Tu as déjà fait quelque chose d'autre qui n'a absolument rien à voir avec le sport, avec la musculation? Pour gagner ta vie,
Ah
j'entends.
bah allez, oui, non mais à 18 ans j'ai passé le bac et puis après j'avais qu'une seule idée, c'est de parce que je voulais absolument aller aux États-Unis et puis tant qu'à faire y rester, quoi. Donc comment faire ça? J'ai trouvé le bon plan, fallait faire ses études aux États-Unis, quoi.
Ok.
Donc après le bac, c'était un l'objectif du bac, c'était me barrer de la maison. Parce que à part des vaches, à des dizaines de kilomètres aux alentours, il y avait que ça. Donc il y avait que dalle. Même si je prenais mon vélo, j'aurais pu faire du vélo pendant 30 minutes. Il n'y avait pas une seule salle de muscu aux alentours, quoi. Donc je sais pas combien de temps tu fais combien de kilomètres tu fais à vélo en une demi-heure, mais même 40 minutes, je suis pas sûr que j'aurais pu trouver dans un seul sens. Hein, après, faut revenir. Hein. J'aurais pas su. Parce que j'avais pas de bagnole, j'avais juste un vélo. Donc, moi, ouais, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer de ce trou à rats et puis d'aller à Paris, quoi. Donc déjà, un, fallait réussir le bac, ce qui était pas comme cette année où il le filait à tout le monde. Hein, j'aurais pu le louper. Et de m'installer à Paris, ça c'était le premier truc pour pouvoir m'entraîner au Weder Gym. Et puis après, je voyais plus grand par contre d'aller comment m'installer aux États-Unis parce que c'était la capitale mondiale du bodybuilding.
C'était quoi le Mister Olympia à ce moment-là, à
Ben,
cette...
là, c'était Banout. En 83, celui que c'était Banout. Après, j'ai perdu un peu. C'était Lianet pendant 6 ans ou 7 ans. Donc, à la fin, j'en avais eu un marque. Puis après, Yetz, j'ai laissé tomber, en fait.
Pourquoi?
Parce que ça me. Bah, je sais pas. Mais c'est comme c'était toujours les mêmes. Liana, il a tenu le pavé pendant longtemps, donc tu vois, ça donne pas beaucoup de variété. J'ai perdu un peu de. C'est
Ok.
pour ça que maintenant ils font plus cette erreur d'avoir un gars qui dure et qui dure et qui dure.
T'as Phyllis quand même qui a tenu.
Ouais, mais enfin, ils ont essayé de le.
pendant un moment, quoi. Bon, maintenant, ça y est, hein, il est détrôné, je pense qu'il reviendra plus.
Ouais, bah ça y est, il reviendra plus, là. Non, mais maintenant, est-ce que tu vas pouvoir faire Olympia 1 an, 2 ans, et puis...
C'est tiens, d'ailleurs, évident. Toi, est-ce que tu as été, petite digression sur le Mister Olympia de, le plus récent, qui est, Bigrami, est-ce que toi, tu as été content, bon, je sais pas si c'est un grand mot, mais est-ce que tu trouves ça normal que Bigrami ait été récompensé, qu'on ait récompensé le plus gros?
J'en ai plus rien à foutre. J'ai même pas, je crois que c'était la première année où j'ai même pas regardé le live, parce que je suis plus vraiment, et puis, je suis, mais de loin. Enfin, les concours, c'est toujours ce qui m'a passionné le moins, tu vois. Je préfère voir un champion s'entraîner devant moi que 10 sur scène en slibard, quoi. Donc la compétition, c'est ce qui vraiment me passionne le moins.
Il y avait une année, tu avais fait quelques petites analyses physiques de la scène Olympia, tu sais, sur ton YouTube. Ça avait été ça avait plu. Moi, j'avais découvert, je sais plus quelle année c'était, mais j'ai découvert vraiment les physiques, les équilibres, je me rappelle, t'expliquer comment on pouvait voir le grand rond, tu vois, qui se découpe dans le muscle grand rond dans le dos, qui se découpe dans le grand dorsal, tout ça. J'avais trouvé ça super intéressant, et je crois que j'avais appris à regarder des physiques grâce à ces vidéos à cette année-là où t'avais fait.
Ouais, c'était le but, mais enfin, faut se renouveler un peu.
C'est dommage que tu l'aies pas fait pour les autres années suivantes.
Parce d'un moment, c'est un peu. Là, cette année, j'avais fait l'infra-épineux, donc peut-être qu'on va faire une l'année prochaine, peut-être qu'on va faire l'arrière de cuisse, parce que l'arrière de cuisse, c'est encore la partie la plus merdique, la plus avec le dos, la plus négligée à Olympia, enfin au niveau en général.
Mais la question, c'est est-ce que tu vas faire des vues avec ça?
Ouais, enfin moi, j'en ai rien à foutre sous la vidéo. Ouais.
Oui, je sais.
Les gens regardent ou pas. En fait, par contre, ce qui m'intéresse plus, c'est que dans 10 ans, un mec qui va tomber sur ma vidéo et puis qui dit ah merde, ça, c'est intéressant, etc. Tu vois, dans 10 ans, j'espère dans 15 ans, j'espère dans 20 ans, c'est peut-être après on est loin, mais j'espère que alors que le mec qui fait sa vidéo, il est en train de conduire sa bagnole et il dit à tout le monde qu'il tourne à droite. C'est du jetable, quoi. Il fait beaucoup de vues, il fera peut-être 1 million de vues, mais c'est du jetable. Dans 10 ans, le mec qui reverra ça, ce sera imbuvable, quoi. Alors que j'espère que au moins 90% de mes vidéos, elles seront encore pertinentes dans 5, 10, 15 ans.
Bon, et quand tu pars à Paris, qu'est-ce que tu trouves une salle? Est-ce que t'es...
Là, il y avait le Védergym. C'était la grosse salle. C'est ça qui fédérait le monde, toute la France, j'allais dire, de bodybuilding, quoi. Il y a beaucoup de champions de toute la France qui venaient faire un petit pèlerinage au Véder. Tous les Américains, les pros, ils passaient par le Véder. C'est pour ça qu'il y a eu Stallone, il y a eu Chuck Norris, tu vois, les méga acteurs. Moi, j'ai vu aussi, ouais, Chuck Norris. T'imagines, tu rentres, il y a Chuck Norris. En plus, il m'a dit bonjour. Je m'attendais pas. Ça fait bizarre, quoi. Si je te dis ça, tu me crois pas, quoi.
Chuck Norris.
Mais à l'époque, c'était quand même. Enfin, maintenant, les gens rigolent de lui, etc. Mais à l'époque, c'était quand même une méga star. Hein.
Oh,
et le mec comme ça, il est planté devant toi, avec personne autour, et ça fait bizarre, quoi. Donc, c'était vraiment la salle qui attirait tout le monde. Et puis après, je voulais faire la culbute pour aller aux États-Unis.
Et t'as réussi?
J'ai réussi, mais quand je suis du Véder à la salle, tu vois, je m'attendais à ce que ce soit énorme aux États-Unis, des méga salles, etc. Le problème, c'est que je suis allé à Philadelphie, et puis les villes, c'est pas comme ici. Enfin, maintenant, les choses changent, mais
c'est
les
villes. Plus éclaté,
ouais, non, mais les villes, c'est... Alors, il y a des quartiers riches, mais c'est beaucoup de pauvres dans les villes. Et là où il y a tout, c'est dans la banlieue. Donc, j'étais pas forcément au bon endroit. Donc, j'étais très déçu par la salle que j'ai trouvée. Par contre, bah, les compléments alimentaires, il y en avait à gogo, ça c'est sûr. Des magazines de muscu, il y en avait à gogo. Il y avait même des magazines, enfin des boutiques de magazines et de livres anciens. Donc, j'en ai ramené des valises et des valises, des vieux numéros de Muscle Builder, etc. Parce qu'à l'époque, je me suis dit, si je les prends pas, ça va être perdu, on les reverra jamais. J'imaginais pas, tu vois, qu'Internet allait reprendre, allait retrouver ces trucs-là. Je pensais que c'était perdu, perdu, quoi, si on se les gardait pas. Donc, je suis revenu. Ma mère, elle est revenue avec au moins une valise pleine de magazines. Ma copine, pareil. Moi, plusieurs valises de magazines. Parce que ça coûtait, c'était dérisoire, quoi. Des vieux trucs d'il y a 10 ans, 15 ans.
Et toute ta famille
Et
était
j'adorais.
dans le body?
Ouais. Non, mais il y avait tout. T'aurais vu Life Magazine ou. Tu sais, ils jettent rien, les Américains, ils revendent tout. Hein. Même s'ils te le vendent un penny, enfin un cent plutôt, ils vont te le revendre un cent. Hein. C'est pour ça que bah y a un gros marché de l'occasion des machines de bodybuilding, mais tu vois ça pour les voitures, le marché des vieilles bagnoles, ils en font même des séries à la télé maintenant. Des mecs qui reprennent des vieilles voitures, qui les rénovent, etc. Il y a un gros marché de l'occasion aux États-Unis. Puis, bah, ce qui s'appelle Craigslist, en fait. C'est un peu
Craigslist,
l'équivalent
ouais.
de Le Bon Coin, quoi. Sauf que c'est puissance 1000 aux États-Unis, le marché de l'occasion.
Ouais, et puis tu trouves un petit peu de tout sur Craigslist.
Ouais, mais c'est ça, bah, c'est comme ça que j'ai trouvé mes vieux magazines de bodybuilding, quoi.
J'ai jamais été regarder, tu vois, s'il y avait. Bah, ici, il y a Craigslist, je suis au Canada et
Bah, il y a eBay,
Kijiji.
hein.
Kijiji aussi, mais c'est surtout Kijiji qui est assez connu. Marketplace est en train de prendre de plus en plus de place, mais
Ouais, non,
Kijiji,
mais
c'est le numéro 1 et Craigslist.
eBay, il y a plein de, si tu veux, des vieux magazines de bodybuilding, sauf que maintenant, au lieu de les payer
Ah ouais.
1 ou 2 centimes, voire 10 centimes, les mecs, ils te les vendent à des prix. Alors que ça n'a plus d'intérêt parce que tu retrouves beaucoup de trucs sur Internet. Donc,
Ok. Donc en fait, il reste pas longtemps là-bas finalement. Tu fais pas
j'y
carrière.
reste, j'y vais déjà pour 1 an. Et puis je devais rentrer, et puis pas de chance, mon père meurt, donc ma mère elle me dit faut que tu termines tes études.
Tu faisais quoi?
Et donc, hein?
Tu faisais quoi comme étude?
À Philadelphie j'ai fait marketing, et puis après, c'est pour ce qu'on appelle le bachelor, le BBA, et puis pour mon MBA j'ai fait management international. Donc ma mère me dit tu termines tes études, donc bah, pourquoi pas, hein. Et donc je suis retourné à Dallas, parce que Philadelphie c'est sympa, mais l'hiver il fait froid. Je me suis dit on va trouver un truc plus au sud. Donc, je suis allé à Dallas et j'ai refait 1 an. Par contre, le problème c'est que un truc qui n'intéresse, enfin dont plus personne ne parle parce que ça n'existe plus, il y avait le service militaire. Donc une fois que j'ai terminé mes études, au lieu de pouvoir rester comme aux États-Unis, bah, j'ai dû rentrer sous les drapeaux parce que j'avais utilisé tous les comment toutes les enfin pas toutes les combines, mais on avait le droit de si on faisait ses études, on avait le droit de repousser sa date de service, mais seulement jusqu'à un certain. Donc,
Un
j'ai
certain
dû aller
point,
sous
ouais.
les drapeaux,
Et
ce
tu as
qui n'était
servi le
pas.
body. C'était pas génial?
Ouais, tu parles, ouais. Enfin, c'était obligatoire, donc.
Ok. Et quand tu as terminé le service, là, est-ce que tu as utilisé le diplôme que tu avais eu pour bosser ou en fait,
Ouais.
tu as directement bossé dans, je sais pas, des magazines ou quoi
Non,
pendant
non, bah, j'ai
des
bien
mois?
essayé. J'ai travaillé un peu dans la livraison rapide. Maintenant, ce qu'il y a Uber, enfin Uber Eats, etc., c'était un peu l'équivalent qu'on avait à l'époque. Je crois que j'ai tenu 1 mois ou 2, mais ça m'a profondément fait chier. Et puis, comme j'étais quand même intéressé par tout ce qui était bodybuilding, et puis je commençais à un peu rédiger, c'est là que j'ai commencé à travailler pour le monde du muscle.
Gratos,
Écrire des...
au début?
Ah ben non, j'ai jamais travaillé gratuitement.
Ah, tu t'es fait payer directement. Ben, est-ce qu'il y avait une concurrence? Il y en avait beaucoup qui voulaient écrire ou t'as trouvé ta place facilement?
Non, probablement pas beaucoup de monde dans ce créneau. Toi, c'était un peu le. Alors moi, j'aimais bien ce que fait Texier, etc. Hein, c'était
Jean
assez.
Texier, ouais.
Mais à part lui, c'était un peu le bodybuilding. C'était un peu le culturisme à papy, quoi. C'était pas. Tu vois les mecs. Déjà aujourd'hui, il y a encore des mecs qui te parlent. Ils te disent, je parle pas anglais. Mais alors à l'époque, c'était encore pire. Les mecs allaient pas chercher de l'information, donc toi j'arrivais avec des avec de l'information fraîche Amérique et puis un peu plus poussée que toi le Pékin moyen. Mais toi pour donner une idée à l'époque, alors je sais plus les dates, mais le premier à avoir parlé de la whey, de la créatine, là, c'est moi quoi. C'est celui qui a boosté les ventes de whey et de créatine, c'est moi.
C'est-à-dire qu'en fait, tu chopais les infos sur des magazines américains.
Bah, c'est là où j'ai fait ma transition. J'avais noté sur mon cahier, je l'ai pris. Si tu veux, je peux te donner les dates. Mais jusqu'à dans les années 90, ouais, toutes mes infos, c'était les magazines de bodybuilding ou les livres. De bodybuilding, j'essayais.
Tu les traduisais, tu faisais des articles en français sur les. Bah,
je traduisais. Non, je traduisais pas. Non, mais jusqu'à 90, j'écrivais pas encore. Mais jusqu'aux années 90, toutes mes informations, c'était des magazines. Et puis, je suis arrivé à un point où je me suis dit, ça suffit plus, quoi. Donc, comment je fais pour passer le. Comment on dit, la vitesse supérieure, quoi. Donc c'est là que j'ai commencé à travailler en bibliothèque de médecine. Quoi.
Ok.
Donc c'est à partir de ce cap que j'ai franchi que j'ai aussi commencé à écrire des articles. Et donc j'ai dû encore plus travailler comme ça pour écrire des articles. Après ça fait boule de neige. Quoi.
Et est-ce que t'en vivais là des articles que t'écrivais ensuite pour les. T'en as vécu rapidement
parce
que c'est devenu ton métier.
Ouais, ça a été rapide parce que j'écrivais les deux ou trois articles dans le monde du muscle. Et puis après, rapidement, je t'ai dit, c'est moi qui ai lancé la whey, etc. Il y a la plus grosse marque de compléments alimentaires française de l'époque qui était intéressée parce que eux, ils voulaient quelqu'un pour écrire justement tous ces trucs-là pour leur publicité. Donc, il m'a dit, voilà, écris-moi un truc. Il avait un fat burner et puis j'ai écrit le truc sur le fat burner et ses ventes elles ont explosé donc il m'a dit bon ben on va travailler ensemble.
C'est un lien avec le marketing avec ce que t'avais fait non parce que c'est
ouais,
une
bah, c'est
sorte
ça,
de
c'est
création
du marketing,
de contenu.
De toute façon, c'est du moi c'est ce que je dis, je vends de l'information.
Et oui, c'est un peu comme pour faire le parallèle aujourd'hui sur les blogs, ça serait créateur de contenu pour un site pour promouvoir des produits. Sauf que toi, t'as peut-être en plus de ça le côté où données scientifiques, parce qu'aujourd'hui sur la plupart
ouais,
des sites
à
web, du contenu, il y a du vide.
Je sais ce que le culturo il veut quoi, parce que tu vois pour caricaturer un peu Véder, mais les pubs Véder c'est je prends la protéine Joe Véder et j'ai les bras d'Arnold. Tu vois, c'était ça son argument. Enfin, non, mais à l'époque, tu rigoles, mais ça se fait toujours. Hein,
non, mais c'est pour ça que tu rigoles. Parce que
c'était les gros arguments publicitaires massus de l'époque, c'était ça, quoi. Je prends la protéine d'Arnold pour ressembler à Arnold. Et moi, j'arrivais avec un contenu plus... Tu vois, j'expliquais hein. Pourquoi ça marche, comment le prendre, combien faut le prendre, etc. Tu vois, ce que tu voyais pas dans les pubs. Entre guillemets, Joe Véder. Parce qu'il te dit rien, il te dit juste, achète ma protéine et tu vas ressembler à Arnold. Mais tu te dis chouette. Enfin, l'idée au début te semble sympa, mais après, tu fais comment?
Mais c'est un peu l'équivalent ou l'idée de l'influenceur très connu qui va faire un exercice un petit peu aléatoire ou exotique et qui dit directement, pour avoir le même physique, achetez mon programme. Ça va
ouais, non, mais c'est ça, mais c'est du degré zéro de. Mais bon, ça marche. Pareil, le mec pour qui je bossais, pour t'expliquer pourquoi la connerie... Tu sais, je sais pas si ça te dit, Cybergenix, tu vois pas ce que c'est?
Non. C'est quoi, c'est une marque?
Une grosse boîte avec plein de petits pots. Et pareil, il y avait aucun argument. c'était que des photos avant-après. Donc, tu voyais un gros porc, et puis ça, c'était avant, et après, tu le voyais, il était hyper musclé. Ou la nana, c'était un gros laidron, et puis tu le voyais après, c'était un méga canon. C'était ça leur argument publicitaire, avant-après.
Et c'est ce qui marche le plus, hein, c'est les transformations.
Oui, non, mais et parce que c'était une méga grosse marque aux États-Unis, puis pour plein de raisons, ils ont coulé. Mais c'était pas à cause de l'argument publicitaire, parce qu'ils ont été rachetés, etc. Et puis le gars pour qui je travaillais en France, il s'est retrouvé avec ça, parce que comme ils ont fait faillite, tu sais, parce que en fait, ils avaient, comme ça marchait beaucoup, ils ont été rachetés par des fonds de pension. Et puis les fonds de pension, forcément, ils savent pas se débrouiller. T'imagines le jour le roi du fonds de pension qui explique à un bodybuilder comment prendre 10 cm de tour de bras, quoi. Donc ils ont coulé la boîte et lui il l'a racheté. Et puis il voyait ses pubs avant après, il s'est dit c'est quand même un peu con. On va mettre un truc un peu plus élaboré. Ben, les ventes elles sont écroulées. Ben, donc du coup ils ont remis le avant après, ça suffisait largement.
Et toi, à ce moment-là, tu te dis pas, merde, ce que je fais, en fait, ça a moins d'impact que des images ou des infographies, enfin pas des infographies, des
Non, parce
transformations
que
comme ça.
Hypergenics, c'était vraiment pour le, j'espère que ça n'existe plus, mais c'était vraiment pour les Ducons, quoi. Tu sais, il y avait 5 pots. Ils te disaient, le matin, vous prenez ce qu'il y a dans le premier pot. À midi, vous prenez ce qu'il y a dans le deuxième pot. Ils te donnaient des programmes, vous entraînez ça. Et toi, t'avais rien à penser. Tu faisais juste, mais il y avait rien dans les gélules. Hein. C'était que du vent, quoi. Là, c'était typiquement un placebo. Et ce qui faisait les seuls résultats, c'est si les mecs s'entraînaient vraiment, quoi.
Mais en fait,
Mais
ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui, cette histoire. En fait, c'est
non, non, bah non, ça n'a pas
pareil.
changé. La connerie est toujours.
C'est toujours,
Non, non,
on
la
promet
connerie.
quelque chose pour passer plus rapidement un résultat, et en fait.
Ouais, enfin, plus rapidement, on promet un miracle. Bah, tu sais, ça n'a pas changé. Regarde ce
Ouais.
qu'on nous promet, le vaccin, on nous promet que ça va aujourd'hui nous débarrasser du Covid. On cherche toujours la baguette magique. Hein.
Bah, le vaccin, il faudrait déjà qu'il se. Non, j'en sais rien. Je
Ouais, non, mais ça marchera pas. Mais
me prononce pas sur ça parce que je n'en ai aucune idée en réalité.
non, non, mais je veux dire, non, mais il y a peu de chances que ça nous en débarrasse. On va être obligé d'être vacciné. C'est pour ça qu'ils ont déjà prévu le coup. La bonne femme à l'Europe, ils en ont acheté plein pour les années qui arrivent.
Bon, ok. Tiens, t'as jamais eu envie de, bah, puisque tu voulais faire ton beurre là-dedans. J'ai l'impression que les choses sont venues plutôt naturellement, mais t'as jamais pensé à
Ah
devenir
ben ouais, moi
coach?
je suis pas. Non, ça me fait profondément chier parce que coach, tu sais, tu t'imagines un sportif de très haut niveau que tu vas pousser, etc.
Ben oui.
Alors que en général, c'est du gland et puis sa femme. Alors tes gosses, ils ont réussi à l'école, c'est ça d'être coach sportif si tu veux gagner un peu d'argent, hein, c'est pas.
Oui, ou alors tu deviens préparateur physique pour des
Ouais,
équipes
non,
de
mais ouais, sauf que le mec que tu prépares, il a pas un rond, c'est ça qu'il faut que. C'est ça le problème, hein. Donc, si tu
bon,
veux en
ouais.
vivre, tu es obligé d'avoir la grosse Raymonde et puis de lui dire, ah, c'est bien, tu lui comptes ses répétitions.
Ouais, ça c'est
C'est ça,
le coach en
sinon
salle
Pascal.
aujourd'hui. Tu comptes les
Ça,
répétitions.
ça.
Ok, bon, bah, tu savais
Lui
déjà,
dire que c'était
t'avais pas
mieux.
envie de faire ça, quoi.
Non, pas du tout, non. Enfin, ça veut pas dire que j'ai pas entraîné des gens, etc., mais c'était juste. Enfin, j'ai jamais cherché à en vivre ou quoi que ce soit.
Ok, et alors qu'est-ce que t'as d'autre dans le milieu en fait? Influenceur, ça n'existait pas, mais auteur, bon, ça c'est venu après. Bah finalement, auteur pour les articles de magazine, donc au final, t'étais là-dedans, tu
Ouais,
vendais de
non, mais entre
l'information.
la pub, parce que la pub, j'écrivais beaucoup, parce que le mec, il avait son magazine, il avait toutes les pages de pub dans le magazine, il y avait le Monde du Muscle, et très vite aussi, il est arrivé, j'ai commencé à écrire pour les magazines américains.
Ok.
Donc finalement, j'écrivais beaucoup.
Mais où c'est que tu les chopais les informations au final? Est-ce que petit à petit tu m'as dit
Bah,
dans
à
les
la bibliothèque.
bibliothèques,
Ouais.
tu regardais les études, mais comment tu pouvais y avait très peu d'études sur ça. Comment tu dénichais des
Ah ben
infos?
non, il y a toujours eu beaucoup d'études. Non, non, il y a toujours eu. Parce que très rapidement, j'ai lu tout au début à peu près 100 périodiques. On ne se rend pas compte. Quand on ne connaît pas. Mais même maintenant, je suis sûr qu'il y a au moins 30 ou 40 000 périodiques médicaux différents. Donc le mec, moi maintenant, j'en lis même pas 1%.
Mais pourtant, on dit, j'entends très souvent que on dit qu'il y a pas de blé, il y a pas d'argent dans le body, dans la musculation, parce qu'il y a pas assez de personnes comparativement à la population qui en fait, donc il y a pas assez d'argent, donc il y a pas assez d'études qui sont faites et qu'on peut pas tirer des conclusions.
Ouais, non, mais moi je regarde pas que les études sur le bodybuilding, je regarde tout ce qui est nutrition, tout ce qui est endocrinologie, physiologie, mais de manière générale, et pour les bodybuilders s'il y en a, plus largement pour les sportifs. Et encore plus largement pour le Pékin moyen, pour la santé. Quoi.
Bon.
Mais non, mais des études, c'est pas ça qui manque. Hein. Et on parle toujours, à chaque fois j'essaie de retrouver les chiffres, mais à quelle vitesse les connaissances médicales augmentent d'année en année, c'est fulgurant. Quoi.
Et est-ce que moi j'ai toujours, j'ai tendance à penser par exemple que les nouvelles découvertes, ce sont plus les découvertes vont aller, c'est comme si on avait un petit peu tout trouvé en quelque sorte, ou que on avait vraiment
80%. Non.
Ah ouais. Et ce qu'on trouve finalement est plus du détail, tu vois, ce sont des mini découvertes qui en fait ne font pas poids en fait dans la balance. C'est l'idée que je pourrais m'en faire.
Ce que je dis toujours, c'est que jusque, je crois que c'est à peu près dans les années 2000, j'aurais pu te donner tous les noms des hormones qui donnaient des muscles, qui faisaient perdre du muscle, qui faisaient gagner du gras ou qu'on faisait perdre. Et puis tout d'un coup, y a un mec qui a découvert qu'il n'y avait pas que des hormones endocriniennes, c'est que tous nos tissus produisaient aussi des hormones. Et là, ça a explosé. C'est impossible pour un homme de tout connaître. Non, ça va tellement vite. Tous les jours, il y a une nouvelle hormone ou un nouveau facteur de croissance qui est découvert, qui donne du muscle. C'est pour ça que c'est de plus en plus compliqué, parce qu'il y a tellement de joueurs sur le terrain que...
Mais si, d'un point de vue pratique, est-ce que ça change quelque chose à la pratique sportive au quotidien?
Ben, moi, je trouve,
ouais. Ouais. Par exemple, c'est quoi
les... J'essaie de retranscrire dans les livres, mais... Évidemment, si t'attends que je te le dise comme ça, mais dans les livres, là, celui que je suis en train de travailler...
La méthode de l'année 4.
Non, c'est sur les blessures, mais c'est des petits détails, mais ces petits détails t'évitent de faire des grosses conneries.
Ok.
Mais non, les connaissances, c'est un puzzle géant et on n'a que quelques pièces. Et plus on met de pièces, plus on arrive à comprendre un peu les choses.
Par exemple, toi, c'est quoi les plus grandes modifications que tu as fait dans ton entraînement au fur et à mesure des années? Ce que tu considères vraiment comme un changement, comme une découverte, grâce à tes découvertes scientifiques, aux informations que tu as piochées, qu'est-ce que tu as changé concrètement dans ton entraînement et qui a vraiment fait une grande différence?
Je sais pas si c'est dans l'entraînement, mais pour la nutrition, c'est le collagène. Ça semble con de le dire maintenant, mais sauf que je l'ai dit il y a 10 ans.
Le collagène, qui est un complément, que tu prends en complément.
Oui, c'est pas forcément un complément.
Oui.
C'est une molécule qu'on mangeait, que nos ancêtres, ou même il y a pas longtemps, on mangeait beaucoup, et qu'on a supprimé de façon très abrupte de notre alimentation, et c'était une grave erreur. On peut compenser par des compléments alimentaires. Enfin, c'était pas obligatoire, mais
parce que le collagène, donc on le retrouve majoritairement dans tous les tissus conjonctifs, les peaux d'animaux, les tendons,
tous les boyaux, toutes les saloperies que tous les gens mangeaient, qu'il fallait faire cuire pendant des heures et des heures, parce que c'est pas du béton, mais c'est de l'élastique, quoi.
Qu'aujourd'hui plus personne mange parce que tout le monde trouve ça dégoûtant. En fait.
Là on s'y interdit, parce que t'as peut-être pas connu, mais il y a eu le problème de la vache folle. Et tout ce qui était triperie, on a pris un grand coup dans la gueule à ce moment-là. Quoi. Mais on mangeait à l'époque, comme c'était le moins cher, on mangeait tous les trucs, toutes les parties non nobles de l'animal, et qui sont probablement. Plus indispensable à la santé que la viande qu'on mange aujourd'hui.
Et le corps, question bête peut-être, parce que peut-être qu'il n'y a pas eu assez de période de temps, mais il n'a pas eu l'occasion de s'adapter à ce manque de collagène.
Là, là, ça a été un frein terrible. Hein. Ça a été à l'échelle de l'humanité, c'est non, ça a été tellement abrupt que aucune chance.
Ok, donc le collagène, tu le retrouves dans des végétaux aussi, à moindre
non,
autre.
Il y a aucun végétaux qui est.
Alors
bientôt, on va nous en vendre, mais ce sera des OGM ou quasi-OGM. Mais il n'y a pas de collagène dans les végétaux.
Et que penses-tu des véganes, alors ? Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce
bon, rien. Ah, j'en pense rien du tout, juste ceux qui me fassent.
J'adore
ça. Me faire chier. Ben non, mais c'est, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Rien du tout.
Je sais, mais je tourne mes questions parce que je sais que tu vas répondre de cette manière-là et je trouve ça drôle. Moi.
Enfin, ben ouais, non, mais c'est, j'en ai rien à foutre. Le mec, il aime, par exemple, il aime la couleur bleue, ça bouleverse pas ma vie, quoi, tant qu'il vient pas me faire chier.
Ok. Bon, non, mais en dehors de ton avis sur le choix, est-ce que aujourd'hui être vegan, est-ce que toi tu considères que c'est l'un des meilleurs modes d'alimentation pour sa santé ?
Enfin, c'est pas le meilleur mode, c'est une mode. Et comme les modes, c'est toujours basé sur des conneries, donc. Mais je te dis, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème, hein, c'est le leur. Donc chacun fait ce qu'il veut. Non, mais si t'habilles, tu vois, tu te laisses pousser les cheveux longs, ça bouleverse pas ma vie, quoi. T'as des lunettes. Est-ce que non, mais t'imagines, si tout d'un coup on se met à dire, ouais, on va faire la chasse à tous les gens qui ont des lunettes parce que tu sais pas pourquoi. C'est mauvais pour la planète de porter des lunettes. Parce que comment c'est fabriqué en Chine, donc etc. Donc c'est hyper mauvais pour la planète et donc faut tuer tous les mecs qui ont des lunettes. Tu vois, c'est pareil.
Par exemple, toi tu manges quoi? Elle ressemble à quoi ta diète alors? Parce que si tu voilà, pour faire plus simple, c'est qu'est-ce que tu manges et par rapport à tes convictions, aux informations que t'as, c'est que grosso modo ton plan alimentaire va correspondre à ce que tu considères de plus optimal. Puisque tu veux garder ta santé, tu veux être bien. Donc toi, c'est quoi ton plan alimentaire ?
Sachant que le problème c'est que tu es obligé de manger de moins en moins, mais plus tu vieillis, plus tu as tendance à faire de gras. Donc tu es obligé de manger moins.
Est-ce que c'est le métabolisme qui ralentit ?
Ouais, enfin, c'est tout qui part en couille. Hein. Il y a pas que le métabolisme, il y a toutes les hormones. Il y a moins d'hormones anaboliques et plus d'hormones de merde, quoi.
Et
donc
ça,
c'est un tout.
Ça, tu peux pas. Bah non, évidemment, on va pas aller contre la mort. Bah, mais
tu peux lutter, tu te bats, mais tu sais comment ça va finir, mais tu retardes
l'échéance.
Bah, déjà en faisant du sport, forcément que comme tu brûles plus de calories, mais bon, c'est on parlait de comment. Du pic,
Ouais, à 30 ans.
Ouais, voilà. Et puis après, ben.
Ça décroît.
Tu sais, c'est comme le niveau de testo, je crois qu'il continue. Il commence à baisser vers 25. Et moi, je l'ai vu.
Ouais.
On peut le parler de façon triviale, mais quand j'avais 20 ans et que je faisais les cuisses, quand j'éjaculais, c'était fou. Tu vois, je le voyais tout de suite quand j'avais fait les cuisses, quoi. Mais maintenant.
Maintenant, il n'y a plus rien qui se passe.
Non, mais ça n'a plus aucun impact, quoi. Non, mais je le voyais par rapport au jour où j'avais fait les cuisses.
Ça te foutait un coup de testostérone
Bah, sûrement, ou ça t'écrasait les couilles, je ne sais pas, parce que quand tu fais les cuisses. Mais par rapport au. Et puis jusqu'à ce que je refasse les cuisses, après, tu vois, il y avait un pic, et puis après, ça rediminuait. Mais c'était flagrant, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire, quoi. Maintenant, c'est une plat, quoi.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette, toi, quand tu manges ? Comment t'essaies ? Est-ce que t'essaies d'organiser à peu près la même chose ? Tu vois, moi, je prends un exemple. J'essaie toujours d'avoir des glucides, une grosse portion de légumes et puis une source de protéines. Bon, comme t'imagines tous ceux qui essayent de manger
muscle
de santé.
C'est pas, ouais.
Toi, c'est ça ? Ça représente ça aussi ?
Protéines, ouais. Protéines, glucides et puis du gras, quoi. Il n'y a pas. C'est ça. Un peu de légumes, un peu de fruits, et puis voilà, quoi.
Légumes,
pas non plus.
Légumes et fruits, pas en grosse quantité?
Non, bah non, pour des raisons digestives plutôt qu'autre chose, mais.
Et ça, c'est personnel ouais. ou c'est
une. Ouais, bah c'est personnel, c'est pas. Bah, de toute manière, tout est personnel après dans la nutrition. Mais bon, par contre, j'irai pas manger chez McDo ou t'es. Parce que maintenant, c'est très à la mode de bouffer que de la merde, etc. Non, ça, j'ai. Ou de boire de la merde. Ça, non, par contre.
Ok, donc tu essayes de manger. Est-ce que tu manges bio? Est-ce que tu considères que le bio c'est une
Bah,
vaste
j'essaye.
connerie
Si,
aussi?
si je trouve, si j'arrive à trouver l'équivalent bio, je préfère, mais c'est pas toujours possible.
Donc bon ben donc
Bio, des fois, c'est dégueulasse en plus. Pour les légumes, des fois, les mecs qui vendent du bio, ils abusent, quoi.
bon donc t'es pas vegan quoi. Tu manges une protéine à tous les repas.
Ah ben non,
Ah,
mais
des
les véganes
protéines, je
peuvent
veux dire.
manger les
Oui,
protéines,
non,
mais les
mais je
protéines animales,
oui.
les protéines animales à tous les repas, ouais.
Ouais, d'accord. Donc bon. Qu'est-ce que je. Oui, ben attends, pour le collagène, alors, donc tous ceux qui sont véganes, je sais pas s'il y en a beaucoup qui écoutent le podcast, qui sont véganes, peut-être, ou en tout cas végétariens, tu recommandes quoi comme complémentation pour santé? Alors, collagène, puisqu'on n'en retrouve pas dans les végétaux.
Sauf que c'est pas vegan le collagène, donc de toute façon tu peux retourner tous les problèmes dans tous les sens, ça ira pas, donc
Mais j'y pense un petit
j'ai
peu
rien.
comme les oméga-3 aussi, finalement, parce que les oméga-3, tu peux les choper végétaux, mais ça n'a pas l'équivalence des
C'est que de
oméga-3.
la merde. Ouais, non, mais c'est pas, c'est le mot est le même, mais les molécules à l'intérieur n'ont rien à voir.
Et elle ne se
On
transforme
joue sur
pas.
les mots.
Ouais, elle ne se,
Voilà, ouais,
les
non, mais
végétaux ne se
c'est
transforment
pas les mêmes molécules, il faudrait qu'elles se transforment alors qu'elles se transforment pas. Enfin, c'est après, c'est par contre, c'est plus facile de trouver des espèces de machins à l'abord moelleux qui contiennent des oméga-3. De plus en plus, on va y arriver d'avoir des bons oméga-3 végétaux. Sauf qu'il va y avoir probablement beaucoup de procédures chimiques dont on ne parle pas, mais ça va être possible. Le collagène, non. Ça va être, je te dis. C'est ce qu'ils appellent symbio, mais c'est quasiment des OGM, quoi.
Bon, j'imagine que tu connais Julien Vénesson.
Ouais, enfin, je le connaissais bien avant, ouais.
Ouais, parce que lui, par exemple, il recommanderait davantage le. Bah merde, j'ai oublié.
La glycine.
Oui, voilà, la glycine qui en fait reviendrait à prendre du collagène, sauf que ce n'est pas d'origine animale.
Non, ça revient pas, mais en plus, le problème de la glycine 1. Je suis pas sûr que ce soit végétarien non plus, parce que c'est 100% chimique. Donc on recommande un produit chimique par rapport à un produit naturel, parce que déjà c'est un peu bizarre. Et puis avec la glycine, le problème c'est qu'il y a des mecs qui ont des effets secondaires de folie, quoi.
De quoi
Donc
digestif?
non, 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 comment cérébraux, quoi. Donc parce que c'est aussi un neurotransmetteur. Donc, t'auras moins de problèmes à prendre du collagène et c'est beaucoup plus complet. C'est un peu comme si je te disais, voilà, ça sert à rien de prendre des protéines, tu prends de la leucine et ça suffit largement, quoi. Ça va être un peu limité.
Ok. Parce que la glycine, c'est une partie du
Sauf que
collagène aussi.
la leucine ne donne pas des effets secondaires de fou. Ouais, non, mais elle est pas seule. Quand tu manges ton collagène, il est hydrolysé et ta glycine, elle est collée à d'autres acides aminés, donc au final, ça va pas se transformer pareil. T'auras pas les effets secondaires que tu as avec de la glycine. Je te dis, c'est comme si tu prenais de la leucine avec de la leucine qui pourrait te filer des effets secondaires de folie alors que ça n'arrive pas avec la leucine. Mais ça te viendrait pas à l'esprit de prendre que de la leucine et pas d'autres protéines, quoi. Tu te dirais, mais c'est débile.
Donc, concrètement, le collagène, on en prend, c'est je crois c'est qu'à 5 à 10 grammes par jour, quelque chose comme ça, en poudre.
Moi, c'est ce que je recommande au moins, oui.
Est-ce que c'est possible d'avoir sa quantité de collagène sans complémentation aujourd'hui si vraiment tu essaies de faire un effort en mangeant voilà en prenant mangeant la peau du poulet en mangeant
Ouais, non, mais tu pourrais.
en bouffant la
Les
carcasse.
gens y arrivaient. Voilà, enfin, la peau du poulet, il faudra manger beaucoup de poulet, mais. Non, mais avant, les mecs, ils bouffaient du pied de porc, enfin, plein de trucs comme ça, quoi, des joues, de la langue,
Qui écœure tout le
toute la
monde aujourd'hui.
triperie, tout ce qu'on appelait triperie, hein.
Ouais. Ok,
C'était
donc
beaucoup de collagène.
tu penses il faudrait en manger quoi une fois par jour pour être
Ouais,
correct?
non, enfin, pas une fois par jour, il faudra en manger des quantités assez importantes, plusieurs fois par jour, pour un sportif, hein, j'entends.
Et ça, comment tu t'es rendu compte que concrètement, Est-ce que c'est les performances qui diminuaient? Est-ce que tu as vu des diminutions de performance entre ceux qui mangeaient pas assez de collagène ou d'autres? Enfin, comment ça t'est venu l'idée de dire bon, mais en fait, ça c'est un truc manquant. Tu sais, c'est pas apparu nulle part, quoi. C'est que tu l'as déduit de quelque
chose.
Non,
mais enfin, c'était moi parce que tu sais, j'avais vu à l'époque il y avait que quelques études, donc j'ai demandé avec au complément, comment au marchand de compléments alimentaires que qui je travaillais d'en vendre. Et puis après, bah sur le forum, t'as tous les mecs qui te racontent ce qui s'est passé quand ils en ont pris, quoi.
Et alors?
Donc c'est là que tu t'aperçois, parce que pas tous, hein, mais il y a un premier mec qui est arrivé à dire putain, j'en ai pris en une heure ou deux, toutes mes tendinites elles sont parties. Donc, je dis, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit coco, t'as eu de la chance, mais bon, ça n'a rien à voir, quoi. Sauf que quand t'en as un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième qui te disparaît, tu te dis merde, il y a quand même quelque chose, quoi. Parce que c'est pas des faux témoignages, c'est comment. S'il y avait eu un faux témoignage à apporter, c'était moi qui l'aurais écrit. Donc il y avait pas. Je sais que c'était vrai, quoi. Ce que les. Alors c'est pas tout le monde, mais quand les gens commencent à raconter ça, tu te dis merde, il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi.
Ok. Et alors ça c'est pour les tendinites. Donc.
Tendinite ou des articulations mal.
Parce que.
Là tu te dis.
Concrètement, c'est quoi l'effet du collagène, c'est sur le corps, parce qu'on connaît les pubs pour l'espèce de truc au collagène pour la peau là, pour les crèmes tout ça. Mais c'est quoi en fait
ça te donne la matière première au corps et comme il manque de collagène, comme il est en pénurie permanente, t'as la peau plus ridée etc. Et quand les bonnes femmes elles prennent du collagène, c'est pour ça que le marché du collagène c'est je dirais que c'est à 97-99% des bonnes femmes, quoi. Parce qu'elles s'aperçoivent qu'elles ont moins de rides, elles ont une plus belle peau.
En crème,
c'est simplement...
tu parles.
Non.
En gélule.
C'est toutes les grosses boîtes de cosmétiques leur vendre des trucs à bouffer en poudre. Il y a un énorme marché. Non, je parle pas des crèmes. Les bonnes femmes, elles se tapent vraiment du collagène comme nous. Donc elles seront ailleurs moins connes que les culturaux qui se disent le collagène ça sert à rien, quoi. Parce qu'elles s'aperçoivent que leur peau c'est mieux etc. quoi.
Et qu'est-ce, juste petite digression sur ça, sur l'acide hyaluronique, ça aussi on en voit pas mal sur l'effet retenseur de peau etc. Est-ce que c'est une connerie ça?
J'ai essayé, ça m'a pas parce que je prenais déjà le collagène. Enfin, pas en crème, en vrai. Hein. Et ça doit être du vrai parce que quand tu le mets dans ta bouche et que comment t'en as déjà pris, non?
Non. C'est dégueulasse.
Quand t'en prends en poudre, tu le mets dans ta bouche, ça se colle. Alors tu sens que c'est hyper lubrifié et puis t'arrives plus à. Une fois que t'en as dans les dents, je peux te dire que pour l'enlever, celui-là, faut te lever de bonne heure. Okay. Assez désagréable comme.
L'acide hyaluronique. D'accord.
Mais moi, je crois, j'ai pas repéré que ça fasse quoi que ce soit. Enfin, en plus, au moins que pour quelqu'un qui prend du collagène.
Ok. Bon, j'en prenais. Moi, j'avais pris un pot de collagène chez Nutrimuscle. Je retourne en France dans pas trop longtemps là pour quelques semaines pour des vacances et je pense que je vais recommander parce que ici Nutrimuscle, j'avais demandé. Je suis à Montréal. Hein, la livraison, elle est pas donnée, quoi. Ça, c'est
ah bah non, non, putain, c'est normal.
Pourquoi ils ouvrent pas une succursale au Canada?
Moi, je suis non, sûr mais c'est pas là pour t'accouter. Oh, tu peux quand même trouver du collagène au Canada.
Ouais, bien sûr, mais bon, après, tu sais, j'ai toujours un peu la flemme de faire des comparatifs de produits pour savoir lequel est de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'il faudrait que je regarde les marques, comment c'est fait, tout ça. Je sais que ça demande beaucoup d'efforts, et alors je me dis, bon, je préfère
faire ça sur une marque. Regarde... Qui sait la source et puis l'origine, parce que il doit y avoir beaucoup de l'équivalent de grass-fed collagène. Tu prends ça et puis tant qu'à faire que t'assurer qu'ils viennent pas de Chine, quoi.
Pourquoi? La Chine, c'est de la merde.
C'est quand même du déchet. Le chinois, il est prêt à refourguer n'importe quelle merde. Je déconseille vivement du collagène chinois.
Ok. Bon, on évite le
parce
collagène.
Il faut que ce chinois. Soit comment quand même fait dans les règles de l'art avec des matières qui soient pas à risque, quoi.
Bon, si on va rester sur le complément, sur la nutrition, parce que toi, tu sépares pas, hein, complémentation, alimentation, pour toi, c'est un gros même bloc.
Non, hein. Bah, c'est la même chose. Hein.
C'est ce que tu mets dans ton corps pour qu'il fonctionne mieux ou au petit
ouais, ouais, non, mais tu vois, quand je prends des de l'avoine en poudre, alors est-ce que c'est un complément alimentaire ou est-ce que c'est de la nourriture
broyée, quoi, enfin mixée.
Ouais, voilà, ouais, non, mais est-ce que c'est de la nourriture ou c'est un complément alimentaire? Quand je prends du lait en poudre, est-ce que c'est de la nourriture ou c'est un complément alimentaire? Quand je prends du lait en poudre qui a été un peu plus sophistiqué puis qu'on appelle protéines en poudre, est-ce que c'est un complément alimentaire ou est-ce que c'est de la nourriture? Après, plus évident quand même, une gélule de vitamines, bon, c'est quand même, largement du complément alimentaire.
Parce
Mais
que
il y
je
a
dis.
la plupart des trucs qu'on prend, c'est difficile de savoir si c'est du complément alimentaire, sauf l'image que tu en as dans ta tête.
Parce que l'idée qui
Et
se
quand je
dit.
vais chez McDo, non mais quand je vais chez McDo acheter un hamburger, est-ce que c'est de la bouffe ou c'est de la merde?
Sais pas.
Ben non,
Écrivez dans
les
les
mecs vont me
commentaires.
dire c'est de la bouffe. Moi je prends pas des pilules, je prends de la vraie bouffe, je vais manger chez McDo.
Non, bah tiens, tu sais quoi? Tu sais à ce que ça me fait penser? Tu vas me dire ce que t'en penses. Je suis ni pour ni contre le vaccin. J'ai une neutralité. À la limite, je suis pour une seule chose, si ça peut me permettre d'être un petit peu plus libre dans mes déplacements internationaux. Mais j'ai pas un avis. Par contre, j'ai pas un avis scientifique sur la question à me dire c'est bien, c'est pas bien pour mon corps. Tu vois, je n'en ai aucune idée. Et je pense que
Mais
même quand
on ne sait pas. Personne ne peut te le dire encore à l'heure actuelle. Donc,
t'as un expert un jour
on
qui va te dire
saura.
c'est super et l'autre
Ben
expert qui
si,
va te
on le
dire.
saura. Si, dans 5, 10 ans, 5, 10, 15 ans, on le saura, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais à la limite, bon, ça, ok. Mais ce qui me laisse un petit peu dubitatif, c'est ceux qui défendent la non-vaccination, qui ne veulent absolument pas se faire vacciner, parce qu'ils veulent pas qu'on leur mette quelque chose dans leur corps, etc., et que ça peut être dangereux et qu'il n'y a pas de retour. Enfin, on connaît tous les arguments. Mais en fait, en parallèle avec toutes les merdes qu'on bouffe industrialisées, enfin, c'est la personne qui dit ça et qui boit du coca au quotidien. Elle se rend pas compte
Bah, de toute
qu'il y a
façon,
une,
non, mais.
y a un antagonisme énorme sur les deux discours. Comment tu peux avoir peur d'un vaccin alors que toute la journée, tu bouffes des produits industrialisés, en fait. Donc, la merde, tu la mets déjà dans ton corps. Donc,
Ouais,
bon.
non, mais après, bon, les gens
Mais c'est une
sont
réflexion,
pas
hein,
très
c'est pas.
rationnels de toute façon. Ouais, non, mais les gens sont pas du tout rationnels. Ils font pas de sport, donc pareil, est-ce que le fait d'être complètement sédentaire. C'est pas inconscient. Est-ce que le fait d'être obèse, quand je te parle, c'est l'obèse à l'américaine, c'est pas l'obèse avec 20 kilos de trop, hein, c'est
Ouais,
avec une
obésité
bonne
morbide.
centaine de kilos. Est-ce que c'est pas inconscient?
Ouais,
Mais enfin, les gens sont pas du tout rationnels. Mais bon.
et je sais plus où c'est que je voulais en venir avec ça. Oui, non, si, alors pour revenir sur le parce que je voulais faire le parallèle avec le vaccin, le fait qu'on dise non, c'est de la merde, et puis finalement on bouffe ces mêmes personnes-là peuvent bouffer de la merde. Mais parce qu'il y a un truc qui se dit dans le milieu du complément alimentaire, c'est ou en tout cas dans le milieu du sport, on l'entend beaucoup là, c'est les fameux youtubeurs que t'apprécies énormément, certains, qui disent en fait, t'as pas besoin de complément alimentaire puisque si tu manges bien, la priorité c'est tu manges bien et
Ouais,
le complément est là pour complémenter, non pas pour remplacer ou non pas pour
non, mais manger bien, déjà, ça veut rien dire. Donc, définir manger bien, ça voudrait dire que t'apportes à ton corps tous les nutriments et micronutriments dont il a besoin. Donc, déjà, à la base, vu qu'on les connaît pas tous, c'est hasardeux comme proposition. C'est impossible de définir ce qu'est manger bien.
Mais par exemple, quelqu'un qui voudrait
Surtout
avoir plus de vitamines, est-ce qu'il vaudrait mieux qu'il double ou qu'il triple sa portion de légumes et fruits, si jamais elle est assez basse, ou qu'il se dirige directement vers des compléments? Qu'est-ce qui serait le mieux? Parce qu'on dit souvent justement qu'il
non
faut
mais
manger d'abord solide.
c'est pas parce que le mec il mange un complément que il est dispensé de manger ses légumes. C'est ça que il n'y a pas d'antagonisme. Tu vois, tiens, j'ai pris mes gélules de vitamines, donc non, je mange pas. Et puis aujourd'hui, j'ai pas pris mes vitamines, enfin, j'ai pas pris les compléments alimentaires, donc je mange. C'est deux domaines qui sont complètement différents, l'un n'empêche pas l'autre. En plus, est-ce que avec, par exemple, typiquement la vitamine D, c'est pas une vitamine qu'on a dans l'alimentation. Il y a des mecs qui ont calculé que c'était impossible d'avoir assez de vitamine D avec son alimentation.
Oui, c'est pour ça qu'il
C'est
faut
pour ça qu'on appelle.
le soleil.
Oui, non, mais le soleil, tout le monde n'en a pas, tu dois le savoir en ce moment.
Ah non, si aujourd'hui il y a un super soleil ici.
Ouais,
Donc
non, mais c'est pas le soleil qui est en ce moment, un, qui va te le donner, deux, c'est pas parce qu'il y a du soleil dehors que tu t'es exposé au soleil, et puis tout l'hiver qui est passé, il n'y avait pas de soleil non plus, donc.
non, c'est vrai, j'essaie de prendre la vitamine D tout l'hiver. Je pense que j'arrête pendant l'été, mais
Bah, tout dépend de ton exposition au soleil, hein. Si
Ben, le
tu
problème,
t'exposes
c'est.
au soleil, tu peux
Ben, en hiver, le
pas
problème
entendre que.
ici, c'est qu'il fait rapidement assez froid. Donc, même s'il y a attends, en plein janvier, février, il peut y avoir des journées qui vont être extraordinaires. Il n'y a pas un seul nuage, c'est bleu, c'est le soleil tape.
Ouais,
Par
mais je suis
contre,
pas sûr que le
il fait moins
soleil.
20. Donc, si tu veux, tu
Ouais,
sors,
non, mais
t'as pas un
imagine.
morceau de peau qui est à l'extérieur, quoi.
Ouais, non, mais imagine qu'il fasse pas moins 20. Je suis pas sûr que le soleil qui est à ce moment-là au Canada soit propice à fabriquer un pet de vitamine D, quoi. Parce qu'il faut qu'il soit placé au bon endroit. Enfin, c'est la merde. T'y arrives quand c'est l'été, etc. Parce que comment à l'usure, j'allais dire, t'y arrives, mais c'est pas si évident que ça. En plus, est-ce que d'exposer ta peau au soleil, c'est bien pour la santé?
Oui, mais alors
Tu
attends, parce
vois?
que moi je me pose la question. Alors, si on doit avoir besoin de la vitamine D majoritairement apportée par le soleil pour être en bonne santé, mais que s'exposer peut risquer, peut provoquer des risques pour sa santé, est-ce que, je veux dire, comment on fait alors? Tu vois, si on
Ouais,
enlève
non,
les
mais
compléments?
si tu meurs à 40 ans, t'avais pas beaucoup à craindre un cancer de la peau qui se développe à 60. Là, on est vraiment dans l'optique longévité. Quel est le mieux? Et puis tout le monde n'a pas une peau blanche, mais quel est dans l'optique longévité, quel est le bon ratio entre apport vitamine D et puis exposition au soleil? L'exposition au soleil, ça apporte des bénéfices, ça a aussi des inconvénients, tu peux pas en abuser. Et puis
Bénéfice, risque, ouais, toujours.
sur un an, la question se pose pas longtemps, quoi. Il y a peut-être 3 mois où c'est bon, mais c'est tout. T'es obligé sur ces 3 mois de tenir toute l'année. C'est pour ça que l'hiver, les gens sont carencés, quoi.
Ok, donc bon, complémentation en vitamine D, ça c'est.
Ouais, non, mais après, je pourrais te parler des vitamines K, par exemple.
Attends,
C'est la
attends.
même merde, sauf
Juste.
que c'est pas le soleil, quoi.
Pour rester sur la vitamine D, concrètement, ça fait quoi dans le corps? Alors, je sais que ça participe à toutes les pleines réactions biochimiques, mais par exemple, si t'en manques, est-ce qu'il y a des symptômes ou des conséquences physiques particulières que tu peux voir apparaître en cas de manque de vitamine D?
Bah, certainement, il y a tout un. Mais après, est-ce
Mis à
qu'il
part
t'en manque
l'exosporose.
assez pour que ce soit. Mais toi, en général, les gens sont un peu plus malades. Et il y a une théorie qui dit. Il faudrait que je retrouve. C'est quelque chose âge. Triage. Voilà, la théorie du triage. Ça veut dire que comment quand ton corps il est en pénurie de vitamine D. Il va utiliser la vitamine, par exemple, hein, ils font ça pour toutes les vitamines. Quand ton corps il voit que, tu vois, tu as par exemple que la moitié de la vitamine D dont tu aurais besoin, il va envoyer la vitamine D aux fonctions immédiates les plus impérieuses, mais il va sacrifier ta santé à long terme. Alors, en fait, pour expliquer facilement. Plus facilement cette théorie du triage, alors qui a été démontrée chez certains animaux. C'est pas juste une vue de l'esprit. En fait, il va t'aider à survivre à court terme, mais ça va favoriser un cancer à long terme. C'est ça la théorie du triage. Les gens peuvent regarder.
Ouais, mais c'est.
Si je résume en 3 lignes des trucs qu'il faudrait plusieurs volumes à expliquer, hein.
Mais c'est le. J'ai l'impression que c'est un peu la procrastination adaptée à
Ouais,
la.
non, mais c'est ça, il y a un survie immédiat et tu sacrifies le long terme. C'est pour ça que pour répondre à ta question, si tu manques de vitamine D, c'est peut-être pas flagrant tout de suite
Ouais.
de le déceler, quoi. Par contre, si tu vois un truc typique, tu manques de vitamine C, bon, tu fais du scorbut, tu le vois tout de suite, quoi.
Ok.
Tu manques de fer, t'es anémique, mais il y a des trucs qui sont subtils avec un sacrifice sur le long terme.
Vitamine D,
bon,
c'est
la théorie.
Ouais, vas-y.
La théorie du triage est peut-être fausse. Hein.
Non, mais parce que c'est toujours le principe des théories, en fait. C'est tant que ça n'a pas été.
Elle ne sera peut-être jamais démontrée chez l'homme, au moins avec les moyens techniques qu'on a maintenant. Mais chez certains animaux, ça semble. Un, ça semble un peu logique. Deux, ça a été démontré dans certains cas chez des animaux.
Mais regarde la théorie du triage. On peut déjà avoir un exemple concret qui l'approuve. Quand t'as pas mangé, quand t'es tout maigre ou j'en sais rien, le premier truc que tu manges va aller dans certains endroits, va plus dans un endroit que dans un autre, tu vois.
Bah, dans les muscles et puis tu feras du gras beaucoup plus tard.
Voilà, donc ça c'est déjà une théorie du triage. Enfin, c'est déjà.
Ouais, mais alors à très court terme. Là, moi, je te parle de vraiment long terme.
Ok. 4 à 8 000 unités par jour. Hein. C'est ça?
Ça fait beaucoup. Non, mais
je sais plus.
Non, mais 2 000, c'est déjà pas mal.
2 000 unités par jour de vitamine D pour être bien.
Il y a les mecs qui sont contre les pilules, mais alors quand ils y vont, c'est 10 000 par jour. Moi, je sais pas non plus. Non, mais je suis pas non plus. J'aime bien les compléments alimentaires, mais sans abuser non plus. Parce que t'as tout hein, dans les.
T'as aussi les ampoules que tu prends qui font 30 000 unités que t'en prends une fois par mois.
C'est ça à éviter comme la peste.
Parce que ça se diffuse pas progressivement dans le corps en fait.
C'est pas ça, mais toujours avec de Delavier. Les mecs qui viennent, alors c'est un peu compliqué, je pourrais l'expliquer facilement, mais les mecs qui habitent tout le temps au soleil et qui sont tout le temps dehors et s'ils avaient pas des mécanismes de protection. Il ferait des overdoses, des méga overdoses de vitamine D. Donc, pour la vitamine D, on a des choses qui favorisent le stockage, l'utilisation, et on a aussi des mécanismes de protection qui nous protègent contre une éventuelle overdose. Parce que, tu vois, toi qui es au Canada, imagine, l'hiver, t'as rien, et tout d'un coup, il y a le soleil, en plein été. Si tous les jours, toute la journée, tu vas au soleil, t'as de fortes chances de faire une carence, un excès de vitamine D. Donc en toi, t'as toujours les deux enzymes qui vont favoriser la vitamine D au cas où il y en a pas trop, et des enzymes qui vont favoriser l'élimination de la vitamine D au cas où il y en ait trop. Donc pour en revenir à tes mégadoses, quand tu feras une mégadose très peu souvent, le corps il passe d'un état d'un manque, donc il va favoriser les enzymes qui sauvegardent au maximum ta vitamine D, et puis quand t'as un tout petit peu de vitamine D, il va l'utiliser à fond ce qu'il a. Tu lui donnes une méga dose, donc il va pas apprécier sur le coup, il va dire hey, les gars, enzymes qui détruisent la vitamine D, allez activez-vous, donc et puis les enzymes qui favorisent, ils vont être désactivés, donc tu vois. Et tout d'un coup, ton dosage, il va se casser la gueule puisque tu l'as pris qu'une fois. Donc, tu vas te retrouver avec plus de vitamine D, mais tous les enzymes qui inhibent l'activité de la vitamine D qui sont à fond les gamelles, et les autres qui doivent sauvegarder le peu de vitamine D qu'il y a, qui sont raplapla. Donc après, le corps, il va rappeler les autres. Hey, les gars, qui détruisent. Donc, toi, tu fais des yo-yo comme ça. Et ils ont montré que pour les systèmes immunitaires, c'est pas bon. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles ça fausse certaines études des effets de la vitamine D contre le cancer, parce que ce genre de yo-yo favorise au contraire des cancers. Mais pour le système immunitaire, on sait que c'est pas bon du tout, parce que quand on compare à dose égale, parce qu'ils ont fait des études pour les gens qui en prennent un peu tout le temps contre les gens qui font les yo-yo à méga dose. Le système immunitaire il répond nettement moins bien quand tu fais le yo-yo à dose égale.
Ok, bon ben c'est bon, on a compris, on est tous, je pense, on est tous convaincus.
Il y a qu'une seule raison pour laquelle il fait une méga dose, c'est parce que comme les gens aiment pas prendre des pilules et qu'ils sont cons comme des balais.
Parce que quand on prend des pilules, on a l'impression d'être malade. C'est ce que disent les gens.
Ouais. Ouais, non, mais après ça dépend de ton point de vue. Moi, très tôt, j'ai vu les pubs de Joveder, donc avec les compléments alimentaires, deviens comme Arnold. Donc, tu vois, j'ai pas cette.
T'as pas cette façon. Mais ça, c'est peut-être l'ancienne
Ben,
génération aussi qui.
sauf
Y a
quand
pas.
c'est vraiment une vraie pilule et que c'est des médicaments. Par contre, les gens qui sont contre les pilules, le jour où ils ont vraiment, toi, ils veulent maigrir et qu'ils n'ont pas envie de se mettre au régime, si le médecin, alors ils en filent plus maintenant parce que c'est interdit, mais quand ils filaient des coupe-faim et autres amphétamines, ils n'oubliaient pas de les prendre, là.
Ça dépend comment où c'est qu'on se place,
Ben, de toute
l'angle de
manière, c'est
vue.
ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les gens sont complètement irrationnels.
Voilà.
Mais si filent des mégadoses de temps en temps, c'est que sinon les gens les prennent pas. Donc est-ce qu'il faut mieux que de prendre un protocole qui est loin d'être optimal ou de pas de protocole du tout?
Je crois que c'est la vitamine C aussi qui, à partir d'un certain niveau, elle n'est plus
Ah
stockée,
bah
elle est
tout, hein.
directement excrétée, quoi.
Ouais, bah la vitamine C, elle est pas stockée, c'est pas une
Elle n'est pas stockée,
liposoluble.
voilà.
Mais
Ça
de
n'a rien
toute
d'empêcher.
manière, il y a toujours des mécanismes. C'est l'avantage. On parlait de le corps, quand tu lui donnes très peu, avec le très peu que tu lui donnes, il va faire le maximum, hein, parce qu'il va essayer de pas éliminer, etc. Et quand il y en a trop, pareil, il va. Et heureusement qu'il est là pour réguler un peu. Donc c'est pour ça que tu as une grosse marge d'erreur par rapport. Donc si tu lui, c'est ce que je dis, si tu lui en donnes un peu, il est content. Par contre, si tu lui donnes rien, il peut pas faire quelque chose avec rien. C'est le cas, par exemple, de la vitamine K2. C'est très difficile d'en avoir, alors que c'est une vitamine qui est très importante.
Putain, ça me fait revenir sur des anciens cours de physio. La vitamine K, je crois que c'est beaucoup sur le système vasculaire, hein, non?
Ouais, non, enfin la K2, la K1, c'est anticoagulant, et la K2, c'est comment anticalcification des vaisseaux sanguins. Mais
Ok, donc.
pas que d'ailleurs.
Ouais, ça lutte contre à la fois les thromboses, les accidents vasculaires cérébraux, bah, tout ce qui est
Mais pareil, enfin, il y a plus que ça, parce que enfin, en gros, ça augmente la longévité, probablement des effets anticancéreux à long terme.
Et la K2, tu la trouves où alors?
Ah bah, alors dans certains légumes, mais pareil, c'est au petit bonheur la chance, quoi. De toute façon, mieux vaut l'avoir en complément alimentaire.
Ok, parce que là, tu vois, je vois santé osseuse. Bon, j'ai l'impression que tout est pour la
Ah
santé
bah si,
osseuse des
santé
fois.
osseuse, oui. Oui, non, mais parce que en fait, c'est ça qui régule l'endroit où le calcium il va se déposer. Donc, soit il se dépose, si t'as pas de K2, il se dépose dans tes artères, donc tu vas mourir d'un incident cardiaque. Soit il se dépose dans tes os et tu vas avoir des os plus solides. C'est pour ça que c'est une vitamine longévité importante.
Ok, le chou, visiblement.
Ouais, non, mais est-ce que tu manges 1 kilo ou 2 de chou, et est-ce que ton chou, il contient effectivement, parce que tu sais, les mêmes
Assez,
qui
ouais.
vont te dire ça, ils disent, ouais, l'agriculture intensive, il n'y a plus rien dans les machins. Puis c'est les mêmes qui te disent, ouais, les compléments alimentaires, ça sert à rien. On parle de l'irrationalité des gens. Moi, je vais au plus simple, au plus efficace, hein, il n'y a pas de.
Bon, alors si on fait le récap pour l'instant, pour être en longévité absolue et vieillir le plus lentement possible, on est sur du collagène, sur de la vitamine D,
Pas,
vitamine
pas,
K2.
après, pas forcément, ce sera peut-être pas mon choix pour la longévité,
Bah,
mais enfin, c'est déjà des.
ouais. Qu'est-ce que tu
C'est
dirais d'autre,
déjà.
quoi?
Non, mais le sport en numéro un,
Oui, non, mais
ne pas
on va, non,
l'excès.
on va en discuter un peu du sport après, mais juste sur les compléments, est-ce qu'il y aurait d'autres choses prioritaires pour toi si on veut être comme un vampire? On veut jamais vieillir, qu'on veut pas mourir.
Ouais, enfin, comme ça, c'est déjà pas mal. Mais de pas manquer de vitamines en général, de minéraux, du magnésium.
En fait, il faut prendre un multivitamine, quoi, comme ça, on n'en parle plus.
En général, c'est pas bon, ça.
Ah merde.
C'est les trucs. Non, mais c'est un peu le truc tout fait pour le tout venant. Il y a rien qui bat la prise individuelle de chaque truc.
Ok, alors
Parce que dans
collagène,
les
c'est pas une
multi.
vitamine, hein, mais
Non, mais. Non, mais dans le, tu vois, dans tes multivitamines, ça m'étonnerait, il y a beaucoup de multivitamines qui est de la K2, par exemple. Déjà, la multivitamine qui a du K1, c'est rare. Mais alors, la K2, c'est trop cher pour être dans un multivitamine.
La K2, est-ce qu'il y a un risque de surdose? Parce que là, je connais pas du
tout. Comme tout, il y a toujours des risques de surdose, mais comme je te disais, heureusement que le corps, il est bien fait. Quand il en manque un peu, il te pardonne, et quand il y en a un peu trop, il te pardonne. Mais bon, en dehors de cette marge d'erreur, évidemment, tu peux faire des conneries.
Tu recommandes quoi, toi, comme dosage quotidien sur de la vitamine K2?
Je sais pas. Je te dis, si avec un peu, ton corps va faire beaucoup. Avec rien, il peut rien faire. Donc, si tu lui en donnes déjà un peu tous les jours,
on prend ce qui est écrit sur la boîte, quoi. S'il y a marqué prenez une pilule, on prend une pilule.
Ouais, enfin, ça dépend quelle boîte, mais non, mais si t'en donnes un tout petit peu tous les jours, c'est déjà.
Ok.
Attends, je peux te laisser 2 secondes parce qu'il faut que j'aille pisser là.
Ah ben vaisy, je vais meubler.
Bon.
Tu peux aller pisser. Ouais. J'avais été pisser avec Delavier. Parce que le podcast avait duré. Allez, ben je vais vous parler à vous maintenant. Hein. J'avais été pissé pendant le podcast de Delavie. Je sais pas si je l'avais coupé. Si, je crois que je l'avais coupé au montage, parce que comme c'était moi qui partais, j'avais pas envie de laisser un blanc pendant 5 minutes. Mais là, pour le coup, c'est Jérôme qui est parti pisser. Donc, ben, on va meubler, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire Donc, si on résume, le collagène, la vitamine D, 2000 unités par jour, le collagène entre 5 et 10 grammes par jour, bon, sur le sportif, à peu près. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu. La vitamine K2, bon, on n'a pas réellement de chiffres, mais ce qui est écrit sur la boîte, mais ça dépend quelle boîte. Qu'est-ce que je voulais lui demander aussi? Ben, je voulais lui demander aussi les oméga 3, s'il considère que c'est utile d'en apporter en plus si on mange du poisson. Enfin, je veux avoir son avis, quoi. Ensuite, de quoi on va parler? On va continuer à parler un petit peu de compléments alimentaires. J'aimerais qu'on discute aussi de l'entraînement, comment s'entraîner pour être plus dans la longévité, dans le bien vieillir. Donc j'ai quelques petites questions que je me suis notées. Je veux son avis sur les cycles de progression aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis j'aimerais avoir un peu son opinion sur la thérapie hormonale. Je vais faire un épisode très rapidement que je vais enregistrer la semaine prochaine avec Laurent Erasme qui va nous donner pas mal d'infos, je pense, sur tout ce qui est les hormones, notamment dans le bodybuilding. Ah ben ça, il est revenu. J'étais en roue libre, ouais, moi, pour les auditeurs.
Et tu vois, ça me fait penser, parce que je bois beaucoup pendant l'entraînement, donc après...
Ouais, mais moi, c'est exactement la même chose. J'évite de faire des podcasts avant d'avoir fait un entraînement.
Une heure, mais pas plus après l'entraînement, parce que...
Ben, c'est pas, y a
et
pas
tu vois, on parlait de longévité, et ça m'a fait penser, parce que dans ma bouteille d'entraînement, je mets du potassium. Un nutriment longévité très très important, c'est le potassium, le magnésium et le potassium.
Ça en fait des trucs. Attends, je sais pas s'il faut
ça
pas que je me les note.
C'est pour ça que ça finit par faire beaucoup. Bah, si on
ça
veut
finit
faire
par faire
bien
un livre,
les choses, bah, ouais, non, mais si on veut faire bien les choses, c'est. Mais pareil, le potassium, par contre, pourquoi pas tu pourrais sûrement l'avoir par ton alimentation. Bonne chance.
Ouais, c'est quoi, c'est fruits et légumes de toute façon.
Ouais, non mais tu peux toujours y aller. Non mais c'est de toute manière, tu peux toujours y aller. C'est comme le magnésium, hein, tu peux toujours y aller. T'arriveras jamais par l'alimentation. Je crois qu'en France, les déficiences en magnésium, c'est 70%. Et pourtant, les taux qui sont retenus, je pense qu'ils ont rien à voir avec la santé. Bah c'est comme la vitamine D. Hein. Les doses, elles sont rikiki, elles ont rien à voir. Mais il y a déjà au moins 80% de la population qui est carencée. La plupart du temps dans l'année, quoi.
Ok, bon, ben potassium, magnésium,
ça c'est les deux minéraux phares.
En termes de dosage quotidien, ça non plus, il y a pas de consensus.
Faut se méfier le potassium beaucoup, mais il faut commencer très très lentement et monter graduellement parce que
ça file la chiasse,
de faire le yo-yo, hein.
Ça file la chiasse.
Bah, de faire le yo-yo avec le potassium, ça non le. Si tu peux faire un incident cardiaque à faire le yo-yo.
Ah oui, oui, la balance.
Bah, c'est pas la balance.
Oui, mais c'est dans les contractions cardiaques, là, je ne sais quoi.
Non, mais on parlait des. Le corps qui a des moyens de sauvegarder le peu qu'il a et puis évacuer l'excès. Mmh. Si tu donnes beaucoup de potassium, ces deux barrières, elles vont être complètement. Et le cœur, il ne va pas apprécier. Ouais. Donc, il faut monter très, très lentement. Et puis après, il ne faut plus jamais arrêter, quoi. Mais c'est le gros avec le magnésium, c'est le gros minéral santé longévité.
Ok. Il y a pas de. Ben, t'es un chez Nutrimuscle. Je sais pas si tu collabores toujours avec Nutrimuscle. J'en parle depuis.
Ben oui, oui, toujours.
Est-ce que il y a un complexe minéraux comme ça qui apporterait suffisamment
Je crois qu'il y a un complexe minéraux.
Ouais.
Il y a tellement de trucs. Ça doit s'appeler multiminéraux. Il y a tellement de trucs qui sortent que je perds le fil.
Toi, tu le prends ce truc ou tu sépares comme d'habitude?
Non, comme je dis, je prends que les trucs individuels.
Ouais, tu sépares tout. Putain, donc, ça.
J'ai le. Ça t'en fait le citrate de le non bah en poudre parce que je le mets dans ma bouteille d'entraînement.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc tu vois, je le vois même pas, je le mets et puis après j'y pense plus.
Citrate de magnésium, là. C'est ça?
Et le citrate de potassium, il y a les deux. Donc t'as deux suppléments en un, t'as le citrate donc qui aide à maintenir ton le pH et puis c'est surtout important pour la santé de terrain quand tu manges beaucoup de protéines, que tu fais du sport, etc. Donc, tu as deux suppléments pour le prix d'un.
Et le malate?
Ah ben, je crois pas, il y en a.
Je sais plus si le malate est bon ou s'il est pas bon. Si c'est le
non, mais c'est sûrement bon. Après, je sais pas pourquoi. Enfin, si, enfin, c'était pour les performances qui prenaient du citrulline malate, surtout.
Parce qu'il y a un dérivé de magnésium qu'il faut éviter, non? Je sais, j'ai perdu le nom.
Non, bah, moi, comment je préfère en prendre beaucoup d'un truc plutôt que de parce qu'il y a plein de trucs de magnésium, des formes. Là, j'en ai encore essayé un très décevant, des magnésiums qui sont très très chers, mais qui sont soi-disant méga méga top en termes d'assimilation. Mon cul, oui.
ouais, mais voilà, non, mais c'est ça. Préfère, je voulais parler d'assimilation. Ouais.
Je préfère un truc, enfin moi pour le, visiblement cette famille, on a des problèmes avec ou d'assimilation ou d'élimination du magnésium, soit on en assimile pas assez, soit on l'élimine trop vite, mais on a des problèmes, donc je suis obligé de me taper des méga doses de magnésium.
Ok, bon, mais je pense que là on a pas mal ce qu'il faut là. Si je voulais te demander les oméga 3, de quel côté tu te penches toi? Est-ce qu'il faut en prendre même si on mange du poisson gras ou pas? Tiens, quand je
bah, c'est...
Ou alors, ouais, non, manger tous
si
les jours.
Si t'habites mais... à côté d'une rivière, peut-être au Canada, t'habites à côté d'une rivière où il y a plein de saumon et que tu manges plein de poisson gras.
Le problème c'est que
sinon
je les pêche
pareil,
pas,
t'y arriveras pas. T'y arriveras pas parce que ton poisson, tu vas le faire cuire. En plus, souvent, c'est de l'élevage. Il y a presque plus d'oméga 3 dans les poissons d'élevage.
Ok.
Donc, c'est ouais. Pareil, je fais dans l'efficacité. En plus, si tu manges trop de poissons, il y a tellement de merde dans le poisson, des métaux lourds et autres polluants que tu vas t'empoisonner. Donc, je fais dans l'efficacité. Je préfère, des oméga 3 qui ont été filtrés chimiquement pour justement évacuer toute la merde qu'il y a dans les graisses de poissons, de poissons d'élevage en particulier.
Et la créatine, astuce longévité ou pas? Parce que ça a été prouvé que c'était pas que bon pour l'hydratation musculaire, enfin des cellules, mais aussi pour le cerveau. Je me tiens pas
au fait de tout. C'est une source de carburant pour les muscles, pour le cœur, pour le cerveau. Donc, si tu leur supprimes, il y a des enfants qui sont pas capables de fabriquer de la créatine dans leur cerveau, bah c'est ce qu'on appelle des débiles mentaux.
Ah ouais.
Et même en leur faisant prendre de la créatine, on a du mal à rattraper le coup. Non, ou pas beaucoup. Donc mieux vaut avoir plein de créatine dans le cerveau.
Ok, il y a pas, il y a de la surdose ça sur la créatine? Non, c'est 5.
Sûrement, mais faut vraiment le faire exprès quoi, ou faut être très con.
Oh, tu sais.
Non, mais je n'ai pas eu pareil, même règle, comment un tout petit peu tout le temps.
Alors,
plutôt que le mec qui va se gaver pendant une semaine, après il arrête, il sait pas pourquoi, et puis 6 mois après il voit son pot, alors il va se regaver, et puis il va oublier.
Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les compléments et tout ça pour essayer de maintenir sa santé et être le plus jeune possible le plus longtemps. Et puis, on n'a pas parlé de sport, qui est quand même un des facteurs prioritaires. C'est que t'as beau t'enfiler toutes ces pilules.
C'est même le facteur numéro 1, je pense.
Ouais. Et alors, toi, tu disais que la musculation, et en fait, après avoir tout retourné dans tous les sens, serait le sport le plus adéquat pour rester en bonne santé, enfin, pour la longévité. Voilà.
Le temps passé à l'effort et l'efficacité du truc, ouais, il y a pas de sport qui sont plus efficaces que la muscu. Alors il y a des mecs qui te diront c'est pas du sport, pareil, on va pas rentrer là-dedans. Mais c'est ce qu'il y a de plus efficace parce que il y a aucune activité physique dans laquelle qui t'offre la possibilité de travailler absolument tous tes muscles. Alors évidemment, le mec qui fait la muscu et fait que les bras, mais potentiellement,
Oui,
il
c'est
a
clair.
la possibilité, ah oui, de faire tout. Et en particulier pour les, après on parle longévité, mais on parle des vieux, très important de travailler les mollets, les rotateurs des hanches pour éviter les chutes, pour garder leur mobilité.
Fessier, moyen fessier.
Ouais, enfin les rotateurs des hanches, c'est il y a plein de muscles dont on n'attrape pas le nom. D'ailleurs, je les connais pas tous, mais c'est
Est-ce que
tous ces trucs-là.
tu parles surtout des pelvis, enfin la catégorie des pelvis trochanteriens là, les obturateurs, piriformes,
Voilà, ouais.
carrés, je sais plus quoi, j'ai oublié les termes. Ok. Sur les squats, ça travaille ça quand même. Sur la presse aussi,
Non,
ça non, pas du
très
tout.
peu,
Il
très
faut
peu.
vraiment faire de la rotation externe quoi.
Enfin, ouais,
Ou
enfin, là, interne et externe, les deux. Enfin, pour les vieux, après, mais enfin, pour quelqu'un qui fait du lourd, c'est bien de les échauffer plutôt que de les prendre à froid. On parle beaucoup
Et
des
on parle de
rotateurs
l'épaule,
de
ouais.
l'épaule. Ouais, mais alors, les hanches,
C'est vrai.
et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à terme? Bah, il y a un nombre de culturaux considérables qui ont des remplacements de hanches très, très tôt. Très jeune. Ben, Coleman, il a eu les deux, par exemple.
Coleman, ouais, je pensais à Coleman.
Mais il y en a plein qui, ils en parlent pas. José Raymond, il en a eu, là. Et puis, il y en a un autre, je crois il avait 35 ans, un Allemand. Alors, évidemment, autant dire que quand tu as eu un remplacement de hanche très jeune, déjà, c'est pas bon. Mais ta carrière, et puis
Allez,
ta
plus.
vieillesse, surtout. Parce que ton remplacement de hanche, je sais pas combien, il a une durée de vie très, très limitée. Donc, il faudra le faire remplacer tout le temps.
J'avais
Et
vu des
donc, passer un
remplacements.
certain âge,
Ouais.
vas-y.
Non, vas-y, passe un
Non,
certain âge.
facile. Non, tu connais la durée. Non, mais passé un certain âge, t'es dans la merde. Parce que c'est une grosse opération et puis t'es trop vieux pour te faire opérer. Donc,
Ben justement,
c'est
c'est un
pas.
truc qui se fait de plus en plus en ambulatoire. Alors non, peut-être si, je crois que corrigez-moi si je dis des conneries, mais qui se
Ouais,
fait
non, mais
de plus en
enfin,
plus
de
simplement.
manière, maintenant, ils arrivent à faire des trucs sans que ce soit. Mais bon, c'est quand même des opérations qui se couent quand t'as 80 ans, quoi.
Je me souviens, j'avais vu quand je faisais un stage à l'hôpital au bloc opératoire, quand j'étais en France, j'avais vu des opérations de. J'avais vu plusieurs des prothèses de genoux. Je crois qu'une des qui m'a le plus marqué, il y avait une ablation d'utérus que j'avais vue, qui était assez impressionnante en celluloscopie. Et il y avait aussi un remplacement de hanche, quoi, la PTH qu'ils appellent ça, prothèse totale de hanche. Et c'est assez, je veux dire, quand ils sortent la tête
Quand ils sortent le bidule, ouais.
la tête fémorale du
Ouais,
truc pour la
ouais.
couper, pour
Ouais.
remettre le truc et qu'ils te le remettent dedans et que t'as une giclée comme ça de sang qui se fait.
Bah, de toute façon, c'est
Tu te dis,
le
putain.
domaine qui a le plus progressé pratiquement dans la médecine, c'est les chirurgiens. Et puis les chirurgiens, c'est quand même des cadors. Hein.
Ça reste impressionnant, quoi. Et c'est sur ce type de chirurgie, c'est quasiment. Enfin, on a l'impression qu'on a affaire à de la mécanique pure, quoi.
Ouais,
C'est
faut
le
que la boucherie,
marteau,
c'est
le.
entre les deux, quoi.
Ouais, c'est entre les deux. Ouais. Ok, bon, il faut bien s'échauffer les rotateurs de hanche, donc pour éviter d'avoir.
Les muscles, un, les échauffer, et deux, les renforcer, parce que t'as exactement les mêmes problématiques qu'à l'épaule. Alors l'épaule, tout le monde y va de sa rotation, etc. Tout le monde comprend, mais je te dis, la hanche,
Ouais,
alors que.
et encore, tout le monde le comprend sur les érudits et ceux qui en font des vidéos. Mais si tu vas en salle, je sais que toi tu vas pas en salle, t'as ton propre home gym. Et de toute façon, c'est fermé en ce moment. Mais tu vas en salle de sport, en fait, tu vois personne faire des Hellfly, hein.
Ouais, mais
Personne. Hein.
peut-être plus en France, c'est là où ma modestie en prend un coup, mais en France, on a quand même sacrément labouré le terrain. Plus sûrement qu'au Canada, les mecs connaissent moins et encore moins aux États-Unis. Pareil, le collagène, va dire aux États-Unis que du collagène, etc., les mecs, ils vont rigoler. Et comment, je suis sûr que en bodybuilding, le pays au monde qui utilise le plus les bandes élastiques, en proportion de la population qui s'entraîne, c'est la France.
C'est peut-être grâce à monsieur Christophe Cario qui a
Ben,
popularisé le
peut-être.
truc aussi. Christophe Cario, qui est passé sur le podcast il y a quelques semaines, si vous voulez aller découvrir ça. Donc, attends, parce que j'avais quand même, je voulais te demander, donc l'entraînement musculaire, ok. Alors, le problème, c'est le cardio. Il faut avoir une séance cardio aussi, parce que si t'as pas de séance cardio, t'entraînes pas le cardio. Hein, juste avec de la muscu. À moins que tu fasses du street workout.
Bah, tu peux faire du circuit, non, mais tu peux faire, t'es pas obligé de, tu peux faire un circuit, ça te fait largement ton cardio. T'es pas obligé, quand je dis musculation, surtout longévité, t'es pas obligé de prendre des barres, de 400 ou développé couché. La muscu, il y en a pour tous les. Mais si tu veux faire ton cardio, alors si tu veux faire du cardio absolument, tu peux. Hein. Mais tu peux aussi faire ton cardio grâce à la muscu où tu fais un circuit et tu t'arrêtes pas pendant 20-30 minutes.
Et d'ailleurs, Christophe, pendant l'épisode, quand je lui demandais quel était selon lui un espèce d'entraînement idéal, de programmation idéale, ça serait que. Par exemple, une fois par semaine, si tu fais un split en musculation, pour ceux qui nous écoutent, qui sont des culturistes, qui font un split une fois par jour en groupe musculaire, c'est bien de se garder un jour dans la semaine pour faire des mouvements qui sont beaucoup plus polis, articulaires, qui vont être plus explosifs, pour aller travailler, développer, adapter les fascias qui ne sont pas, qui vont être plus travailler sur des exercices d'explosivité et des polyarticulaires. Tu vois, je pense à des muscle-up, par exemple. Et que c'est bien de se garder une séance dans la semaine comme ça.
Ouais, bah, alors là, je suis assez réservé. Mais bon.
Ah, oh putain. Attention, le clash.
Bah non, mais...
non, je sais pas. Non, mais moi, je demande. Je sais pas.
Ouais, enfin, je te dis, ça me paraît fumeux.
Ok, mais... D'accord. Mais pour une raison particulière. Enfin, moi, ça me paraît très logique, tu vois, de me dire de faire du travail explosif.
Ouais, t'as besoin de tirer comme un malade. Alors, si tu veux travailler tes fascias, il y a un Français qui a développé une méthode qui s'appelle Eldoa, je crois, de nom.
Ah ben oui, ben. Donc là, tu peux... Eldoa, mais ça je connais parce que. J'avais discuté avec.
Tu vas me donner le nom. J'arrive plus à trouver le nom de.
Alors, les Eldoa, c'est français, ça ?
Oui, oui, oui.
Étirement longitudineux, décoaptation.
Mais regarde qui a développé le système, c'est un français.
Guy Voyer.
Voilà, Guy Voyer.
Ostéopathe. Et ben, tu vois, c'est marrant parce qu'ici, il y a des Eldoa et j'en discute avec un collègue sur ce podcast qui est.
Ah, bah, c'est parce qu'il va travailler beaucoup avec le Canada, c'est pour ça que.
Ouais, ouais. Ben oui, il y a beaucoup de formations qui sont...
On remarque quand j'entends son nom, mais je crois qu'il est de Marseille ou quelque chose comme ça, mais vous voyez, ce serait plus canadien que français, mais... Enfin, de mémoire, j'avais qu'il était français.
Guy Voyer, qui est ostéopathe. Et ok, donc toi, ça te parle, ça, Eldoa ?
Ah ben, ça me parle Guy Voyer, Eldoa, oui, ça me parle. Par contre, de faire le gugus explosif, non, ça me parle pas.
Ok. Tiens, je suis désolé, j'ai perdu le nom de mon invité avec qui j'en avais discuté un petit peu d'Eldoa parce que j'étais curieux et on en avait parlé. Je suis désolé si tu m'écoutes. Ça va me revenir. Ok. Bon, ben alors pas forcément d'explosivité selon Michael Gundil pour les fascias. Par contre, un truc.
Je vois pas trop le rapport, mais.
Ouais, un truc qui provient de toi, dans tes bouquins, que j'en ai déjà parlé dans plusieurs de ces épisodes, je me rappelle, j'en avais discuté un peu avec... Enfin, j'avais abordé le truc, c'était avec Véronique Graff, c'était sur le fait que la courbature... Alors ça, c'était un grand mythe que tu avais cassé dans le dernier méthode de la vie, je pense, c'est que le grand mythe de la courbature ne provient pas du muscle, mais provient du fascia. Et qu'en fait, tu peux t'en réentraîner sur une courbature, ça n'a pas d'impact sur le muscle.
Il faut même se réentraîner sur une courbature. Après, faudrait définir ce qu'on entend réentraîner. Mais oui, de toute manière, c'est pas difficile. Les muscles, dans les muscles eux-mêmes, il n'y a pas de récepteur à la douleur. Donc, ce qui en contient plein, par contre, c'est le fascia. Donc, quand t'as des courbatures, ça peut pas être. Ce qui veut pas dire que ton muscle il est pas déchiré, etc. Mais je pense que même si ton muscle il est très endommagé, tu le sens pas. Par contre, dès que t'as touché un peu au fascia, c'est là que ça devient très douloureux.
Ça serait un peu comme le cerveau et puis la dure mère, par exemple.
Bah oui, enfin là, c'est pas mon domaine. Mais par contre, avec ce truc un peu bizarre des courbatures, c'est que tu peux avoir des courbatures de folie, mais si ton muscle est relâché, tu sens rien. Par contre, à partir du moment où on va tirer un peu sur le fascia, c'est là où tu dégustes.
Ok.
Et par contre, pourquoi faut se réentraîner, alors léger, parce que évidemment, quand on fascia, il est un peu abîmé, c'est pas le moment de retenter un maxi. Quand je dis réentraîner, c'est sur en congestion, sans traumatiser ni le tendon, ni rien du tout. C'est juste le. Et ce qu'il faut, c'est avoir mal, alors uniquement sur la courbature, parce que les molécules qui médiateurs de douleur sont celles qui vont aussi réparer le fascia. C'est marrant que ce soit les mêmes. Parce que c'est pas le cas de. Enfin, si, c'est le cas de tous les tissus, mais avec beaucoup de restrictions pour les tendons et pour les articulations. Parce que rapidement, un tout petit peu de substances qui font mal dans les tendons sont bénéfiques, mais rapidement, ça va tourner au cauchemar et ça va devenir très très néfaste. Mais sur les courbatures, tu peux y aller.
Bon, ben non, mais c'est intéressant ça. J'ai retrouvé le nom. Je m'adresse aux auditeurs surtout qui sont intéressés par les LDOA un petit peu. C'était David Kinn, l'épisode 50. Et excuse-moi,
Le
David.
mieux, ce serait que t'invites Guy Voyer pour
Mais
te parler de sa.
c'est ce que j'ai fait. Je me suis noté le nom parce que tu vois, on n'avait pas parlé de son fondateur, il me semble. Et alors, je vais me le noter pour en parler avec lui. Mais je voulais retrouver le nom de David Kinn quand même, qui était un collègue ici, un collègue ostéo avec qui j'ai travaillé pendant quelques mois. Ok. Est-ce qu'il y a un entraînement à privilégier?
Il est perché très haut, Guy Boyer.
Comment?
Il est perché très très haut. J'arrive pas à comprendre 80% de ce qu'il va te raconter.
Mais justement, ça va donner l'occasion de décrypter tout ça, peut-être. Parce
Bonne
que.
chance, mais bon.
Pourquoi pas? Allez. Si quelqu'un connaît Guy Voyer personnellement, qu'il n'hésite pas à faciliter la mise en contact. C'est toujours plus simple. Les machines, les poids libres, je sais que toi, tu es un grand fervent défenseur des machines pour pouvoir justement l'adapter à ton.
Des bonnes machines,
Des bonnes machines.
c'est une nuance importante.
Voilà. Concrètement, ça serait beaucoup mieux. Que du poids libre pour toi,
Ben
on
oui,
reste dans la longévité, hein.
ouais, non, mais même hors longévité, surtout pour les mouvements, les mouvements pluriarticulaires, donc du genre développé couché, squat, etc. L'homme, il a été fait pour bouger de façon circulaire. Tu vois, quand tu cours pas les jambes tendues, ou quand tu fais un biceps, bon, c'est le plus simple, tu vois que c'est circulaire. Mais dès que tu es au poids libre sur des poids, enfin avec des poids libres sur des mouvements pluriarticulaires, ils sont tous linéaires, ce qui est complètement antiphysiologique. Et donc c'est pour ça que les mecs ils finissent détruits, enfin entre autres, mais tu finis détruit très rapidement.
Mais parce que si t'as des haltères, par exemple, est-ce que c'est pas
Ben,
justement le
t'arriveras un
maximum
peu
de la
mieux.
liberté?
Ouais, mais la gravité va faire que ton bras, si tu essaies de faire du circulaire ou développé couché, ton bras risque de partir. Puis c'est pas simple, dès que c'est lourd, c'est difficile de garder les trajectoires. Alors que sur une bonne machine, c'est elle qui te donne la trajectoire. En plus, si tu as une faiblesse, tu lâches et puis le bras, il revient en place un peu brusquement.
Oui,
Mais
tu risques
si
pas.
tu fais ça avec haltère, tu prends l'haltère sur la gueule.
Ok. Il n'y a pas d'intérêt à s'entraîner plus explosif que. Ben justement, pour revenir sur ce qu'on disait au début, si tu n'arrives pas à prendre de muscle en étant explosif, tu n'arriveras probablement pas à prendre de muscle en étant lent. Est-ce que.
Bah, si, il y a peut-être des gens qui. Mais bon, après, le mec qui prend tous les champions, de toute manière, s'entraîne en explosif. Mais déjà, si tu sais que tu es obligé de faire du lent, c'est que tu as un potentiel de développement musculaire qui est plus restreint.
Est-ce que tu penses que ça va pas avoir un intérêt de s'entraîner lentement pour
Ah bah oui, non, mais c'est ce que je dis tout le temps.
à part la blessure?
Non, non, bah si, ce qui est intéressant, c'est toujours de, comme on le disait pour les courbatures, tu t'entraînes à fond, tu développes la courbature et tu fais des entraînements plus lents, plus légers, etc. sur la courbature. Là, ça a intérêt de varier ce que la méthode de Lavie 2, on appelle la méthode traumatique, non traumatisante. faut toujours alterner des entraînements traumatisants à non traumatisants pour assurer une meilleure récupération et pour pouvoir s'entraîner entre deux entraînements lourds. Parce que si t'attends que de récupérer de l'entraînement lourd, tu perds des opportunités d'entraînement parce que la récupération prend un temps fou. C'est pour ça que je suis aussi contre comment tout ce qui est planification. Moi, le mec qui fait du lourd pendant un mois, ça c'est un coup à finir vite blessé, quoi.
Ben justement, j'allais en venir sur ça, sur la programmation et le fait de planifier un petit peu ces séances.
C'est une connerie.
Ah ouais.
C'est une connerie sans nom.
Alors parce que notre ami Rudy Koya, par exemple, est un grand défenseur des cycles de progression, et c'est là où je voulais en venir aussi, c'est de savoir si toi, programmer, mettre en place des cycles de progression, c'est contre-productif.
Ben c'est pas ça, mais est-ce que tu arrives à prévenir l'avenir ? Si tu arrives à prédire l'avenir, donne-moi les chiffres du loto de la semaine prochaine, ça me suffira.
Et donc, si en contrepartie, je dis, c'est pas laisser le hasard faire les choses, mais plutôt essayer de conduire le hasard. Et,
ben non, imagine comment, tu vois, par exemple, surtout en ce moment, t'es à ton programme, et puis imagine tout d'un coup, il se met à faire 30, 35 degrés, t'es crevé, et par contre, sur ton programme, il y a écrit, faut que t'ailles à fond, coco. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était imprévisible à l'avance. Alors toi, tu vas essayer, c'est pour ça que c'est la porte ouverte aux blessures. Et puis, imagine un jour, t'es super en forme, tout s'est bien passé, t'as bien dormi, tout. Et puis sur ton programme, c'est écrit, là, faut que tu ailles à 50%. Bah, t'as une perte d'efficacité alors que t'aurais pu y aller à 110%. Ou pareil, t'as bien dormi, t'as mal dormi. Et l'autre, sur ton programme, il a écrit... Il faut y aller à fond alors que tu as passé une nuit blanche. Moi, je suis pour la programmation, mais dans l'immédiat. Et déjà, tu t'aperçois que en concours d'haltérophilie, pourtant, il y a tout un staff et ils sont quelques minutes avant un lift. Le nombre d'erreurs sur les poids que le champion demande, ils sont énormes. Donc, les mecs, t'imagines, à deux minutes près, en sachant si le champion, il est en forme, pas en forme, tous les paramètres, tu les as, t'as déjà du mal à prédire l'avenir à quelques minutes. Alors, lui, il prédit l'avenir à des mois, il est génial. Je sais pas si tu comprends.
Je comprends.
Pareil,
je comprends.
Tu regardes n'importe quel sportif, tu regardes, et puis après Roland Garros, ils interrogent le champion, alors, vous avez perdu, bah ouais, pourtant j'étais en forme, je sais pas ce qui s'est passé. C'est très très difficile d'analyser ta forme que t'as. Et la progression qu'on aura dans l'avenir, c'est si t'as une machine ou un moyen de savoir à quel pourcentage de ta récupération tu es et à combien il faut que t'envoies en réponse à ça dans l'entraînement qui arrive immédiatement. Ou même, tu vois, de dire, ben non, aujourd'hui, c'était les cuisses, mais par contre, là, on a détecté que tes bras, ils avaient super bien récupéré, donc c'était pas prévu que tu les fasses, mais tu vas les faire à fond les gamelles, ou sinon, ça te prédit, tiens, faut que tu fasses les pecs, mais ils ont pas tout à fait récupéré, donc tu vas faire un peu plus léger, mais un peu plus long, etc. Et là, il y aura un gisement de progression énorme. Mais le mec qui pense faire ça... comme ça, à l'avenir, grâce à l'opération du Saint-Esprit, je peux te dire qu'il se fout de ta gueule, mais en beauté, quoi. Alors, ça marche sur un mec qui débute, parce que la marge d'erreur, elle est énorme chez un mec qui débute.
Ouais, mais peu importe ce que tu fais, tu t'auras des gains, quoi. T'auras des performances
de toute façon,
augmentées.
Comme le mec, il arrive pas à s'entraîner, il est très loin de sa capacité maximale. Par contre, sur des mecs qui ont déjà un haut niveau, tu t'aperçois qu'à quelques pourcents, de ta forme maximum en plus ou en moins, ça va avoir des répercussions gigantesques sur ton nombre de répétitions.
Mais alors dans ce cas-là, comment tu jauges ta progression si tu
ta progression ou l'entraînement
La progression, bah les deux,
ta
les
jauge.
Deux.
Ouais. Non mais tu la lisses par exemple sur une semaine ou deux ta progression. De toute manière, tu vois bien un poids qui te semblait lourd, tout d'un coup il te semble léger, bon bah t'as progressé.
Mais comment tu fais quand tu t'es de plus en t'es au stade intermédiaire et que ça fait un petit moment, quelques années que tu t'entraînes et que au final la progression elle est faible, Est-ce que tu risques pas de stagner pendant X temps parce que justement tu n'arrives pas à passer un palier?
C'est ce que je te disais depuis 35 et quelques années de muscu, j'ai l'impression de stagner depuis 35 et quelques. Mais
et pourtant,
si tu arrives à détecter le bon paramètre, tu arriveras toujours à trouver un peu d'espoir et une progression. Tant que tu t'entraînes, tu finiras par progresser.
Peu importe la méthode, en fait. C'est-à-dire que...
Ah ben, faut mieux utiliser une bonne méthode. Si t'es déjà pas doué génétiquement et que tu utilises une méthode de merde, c'est pas l'idéal.
C'est quoi? J'en reviens à poser des questions à la con, des questions basiques, mais 12 reps, 20 reps, 60% du max. Après, c'est...
Non, mais tout dépend de, je te dis, imagine que t'as une machine qui, ce qui pourrait te répondre, c'est une machine qui dit, tiens, tes pecs, ils ont vachement bien récupéré, là, tu peux y aller à fond et donc tu prends très lourd. Mais par contre, la limitation de ça, c'est que ton pec, il peut avoir très bien récupéré, mais ton épaule, elle te dit, eh non, coco, eh non, pas aujourd'hui, non? Ou le coude, ou, donc t'as plein de paramètres qui rentre en jeu. Donc, c'est pour ça que je le sais vraiment au dernier moment.
Mais comment tu le sais? Parce que, comme tu dis, en fait, il y a pas de moyen. Comment je peux savoir, moi, par exemple, que mon pec, il a récupéré et pas mon épaule?
Bah, tu vois bien à la série de chauffe, si le poids de chauffe, il te paraît peser des tonnes, tu te dis merde, c'est pas bon. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et puis déjà, bah, si t'as bien dormi, si tu sens que t'es en forme, c'est pas la solution absolue, mais c'est tout des indices. Après, en espérant que les indices vont tous dans le bon sens. Mais après, je parle des gens qui ont un certain niveau, chez qui, comme je répète, chez qui 1 ou 2% de force va faire une différence terrible. Et comment les champions de haut niveau ils résolvent ce c'est pas difficile. Hein. Comment le champion de haut niveau résout ce problème de la façon la plus simple? Et c'est là qu'on en arrive avec les cycles. J'avais fait une vidéo là-dessus aussi.
Si on veut s'entraîner toujours dans l'optique d'être en meilleure santé longtemps, est-ce qu'il y a une fourchette de répétition à privilégier ou encore une fois, c'est en fonction de la forme du jour?
La fourchette la plus large possible, justement, entre du lourd que tu alternes avec du léger pour la récup.
Ok.
Il n'y a pas un chiffre. Ouais. C'est tout l'éventail de. C'est tout des outils. C'est comme si t'as un plombier qui arrive chez toi et puis il a juste un tournevis, tu vas te dire merde. Non, il arrive avec toute une caisse à outils et il va utiliser l'outil le plus approprié par rapport à la situation qu'il trouve en face de lui. Ben, tu vois, tu vas faire ça à la salle de gym. Et c'est pour ça qu'il faut que tu saches à quoi servent chaque outil, etc. J'espère que c'est ça qu'on a passé dans les livres.
Et bon, inutile de préciser que mieux se connaître et connaître sa morpho-anatomie te permet de mieux choisir tes exercices.
Oui,
aussi,
de connaître aussi tous les outils.
Quand tu parles de machine ou de stratégie d'entraînement?
De nombre de répétitions, de séries de techniques d'intensification, tout ça, c'est tes outils. Le temps de repos, c'est aussi un outil. Tout est un outil.
Parce que mesurer le temps de repos entre deux séries, pour toi, c'est pas utile. Enfin, c'est pas utile.
Il y a toujours un temps. Donc, tu le mesures pas, mais c'est un outil. D'enchaîner très vite, comme on le disait, les circuits en cardio, c'est un outil. D'allonger tes temps de repos pour t'entraîner plus lourd, faire beaucoup plus lourd avec moins de répétitions. C'est un outil, tout est un outil. C'est pour ça qu'il faut savoir ce que tu apprends au fil des années, c'est à jongler avec ces outils, ce qui n'est pas évident. Tu sais, c'est comme les échecs. Je peux te montrer comment déplacer les pièces. Je vais, par rapport à un champion, le champion, lui, il va en avoir. Moi, j'en ai tiré aucune conséquence, je vais juste déplacer les pièces. Le champion, lui, il va avoir tellement... savoir jongler avec ses outils qu'il va te battre en 2 secondes. Tu vois la différence entre un mec qui sait juste déplacer les pièces, ça c'est le débutant, et encore pas toutes les pièces, parce que tu peux pas tout savoir quand tu débutes, par rapport au grand champion qui lui va en tirer des conséquences que t'as même pas idée dans le
Est-ce que toi, quand tu aujourd'hui là, ton objectif, c'est de rester en forme, en santé le plus longtemps possible. T'essaies quand même de progresser.
Bah, j'essaye. Au moins, je me le dis, même si c'est pas vrai, j'essaye de le croire.
Tu t'entraînes plus pour progresser ou plus pour te maintenir?
Ah ben, je m'entraîne toujours pour progresser parce que si t'arrêtes de t'entraîner pour progresser, c'est fini.
Ouais, et puis tu régresses automatiquement, quoi. Parce que t'es en
salle. Ah oui, là, c'est garanti.
Ok, ok. Sauf qu'à partir d'un certain moment, en fait, ton désir de progression revient à ton désir de maintenir. Enfin, revient.
Ah ben, après, oui, non, mais de toute manière, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que je vais pas non plus m'arracher un pec ou me niquer le dos pour. Donc, faut faire avec, pareil, avec les outils. Comment. C'est de plus en plus, t'exploites tes outils, je te dis, comme un champion d'échecs par rapport à un débutant qui sait à peine déplacer les pièces, quoi.
Et je suis curieux de savoir.
J'espère que tu comprends l'analogie.
Je comprends, ouais. Je pense que tout le monde a compris un peu ce que tu voulais dire. Il y a beaucoup d'expérience aussi et beaucoup de personnalisation et de personnalisation sur soi-même et.
De réflexion. Et, après, tu sais que. Tu connais plus les conséquences. Le mec, il va te prévoir les conséquences à plusieurs coups, alors que toi, t'es à peine à ton coup. Mais je te dis, faut gagner de l'aisance avec les outils, parce que tous les mecs, ouais, mais les outils, je les connais, mais il faut quand même, après, les savoir, les exploiter, et comme le champion d'échecs, il va se servir de son cavalier, alors que toi...
Et alors, souvent, ce qu'on entend aussi, c'est les outils sont utilisés davantage par ceux qui... Là, c'est, attention, un gros sujet qui arrive, sont... Ces outils, tu vois, les dégressifs, les lents, les ceci, les cela, sont plus utilisés par ou conseillés par ceux qui ont recours à des produits dopants, par exemple, qu'à des personnes qui sont naturelles. Parce que quand t'es naturel, soi-disant, je ne vise personne, je ne mentionne personne, et puis je me détache de toute conséquence de ces mots. Mais c'est que c'est seulement si tu pousses plus lourd que tu prends du muscle, ou en fait. Ou en fait, tous ces outils-là, c'est surtout quand t'es dopé. Voilà, pour faire simple, certains qui disent.
T'as déjà vu les champions s'entraîner? Tu les as déjà vus utiliser beaucoup d'outils? Ils chargent comme des malades sur les barres, ils poussent, et puis voilà. Donc,
moins
ce
peut-être
que tu
ça
me décris, c'est exactement le contraire de la réalité.
Ok, donc il faudrait
T'as déjà vu des champions utiliser des outils Même Charles Glass, quand tu le vois, tu t'aperçois qu'il comprend même pas ce qu'il fait, quoi.
Et il bourrine, quoi. Il bourrine. Mais alors, ça veut dire que si t'es naturel, il faudrait plus utiliser les dégressifs, varier.
Oui, justement, il faut utiliser tout le plus d'outils, le plus large éventail possible, parce que t'as moins besoin quand.
Donc, l'entraînement naturel, il est clairement différent de celui d'un dopé, alors.
Ah ben, de toute façon, ça. Enfin, il y a des parties communes, mais ça n'a rien à voir non plus. Parce que c'est ce que je disais, c'est ce que je t'ai laissé pour les cycles. J'avais fait une vidéo là-dessus. Quand on dit tu fais un cycle de force, un cycle machin, c'est pas cycle que tu fais. Non, c'est le cycle de stéroïdes que t'adaptes. Le cycle, je sais pas si t'avais vu cette vidéo.
Je sais pas, je crois pas que je l'ai vu.
Mais c'est le cycle, c'est typiquement des pays de l'Est et le cycle se réfère à l'usage de produits, pas à l'entraînement. C'est ça que les gens n'ont pas compris depuis le temps, et ça devrait, le poteau rose devrait avoir été découvert.
Ok, alors c'est drôle parce qu'en plus on parle de toi sur jeuxvideo.com, là, je vois un article. Gundil tacle les cycles de progression.
Ben non, le cycle de progression, c'est le cycle de stéroïdes pour progresser, et à partir de ton cycle de stéroïdes, t'adaptes ton entraînement. Donc plus tu prends de produits, évidemment, plus tu pourras t'entraîner lourd, plus tu pourras faire de séries, etc.
Okay.
Mais c'est pas le contraire.
Bon, bon, alors on s'entraîne un peu différemment quand on utilise des produits.
J'avais fait une vidéo pour l'expliquer. C'est politique, puisque ça vient des pays de l'Est, ça vient de l'URSS. L'URSS, tout était régimenté par l'État. Donc on avait des plans, les plans quinquennaux, les plans décennaux. L'entraînement des athlètes était aussi régi politiquement par des cycles. Et quand ils ont découvert les cycles des athlètes, il y a des documents, je les montre dans cette vidéo, il y avait tout leur cycle de stéroïdes avec le volume d'entraînement à côté qui variait. c'était de, comment, dans les archives de la police politique, la Stasi, pour les gens qui ont écumé les archives dans les pays de l'Est.
Toi, t'as jamais eu envie d'essayer les produits dopants?
Bah, c'est pas que j'ai pas envie. L'envie, c'est pas ça qui manque. Hein.
Alors, c'est quoi le frein?
Ben non, le frein, c'est que j'ai vu pas mal de monde. C'est rarement un facteur de longévité.
Ok, parce que tu vois, bon, quand j'ai discuté avec Frédéric Delavier sur le podcast, bon, lui, on en a parlé, et il m'a raconté un peu comment ça s'était passé pour lui, les tests qu'il avait fait, enfin les tests avec les produits qu'il avait fait, ce qu'il en avait retiré de bien, de pas bien. Grosso modo, je vous conseille d'aller écouter cet épisode, il est un peu long peut-être, mais bon, qui disait qu'en fait, lui, l'obstacle du fait qu'il avait arrêté, enfin, la raison pour laquelle il avait arrêté, c'est qu'il voulait pas être dépendant, il aimait pas toute forme de dépendance. Mais alors, je parle de Delavier parce que c'est un peu ton coéquipier. Je sais pas, je veux pas dire de mots qui ne sont pas le cas, mais on te connaît beaucoup avec Delavier parce que vous avez écrit les bouquins ensemble. Toi, ça t'a jamais tenté dans ta jeunesse ou dans la trentaine, je sais pas, de faire une.
Ça m'a tenté, mais j'avais déjà vu pas mal de monde et les mecs que j'avais vus en général, ils montaient vite et puis ils redescendaient. La première fois que je suis arrivé au VDR, je voyais un mec, il était énorme, il avait des furoncles comme ça partout sur le corps. Je me dis, merde, qui ? Alors, j'ai mis du temps, je savais pas pourquoi les mecs avaient plein de boutons comme ça. Je l'ai su après, et j'ai pas vu que des réussites sociales avec les stéroïdes.
Et la promesse de la prise de muscles facile ne t'a quand même pas convaincu, quoi. Pourtant, c'est ce qui convainc tout le monde, justement.
Le problème, c'est que, boutons, ça part. Ouais, mais... Non, mais tu vas prendre, comment, imagine, tu prends 10 kilos de muscle, ok? Mais qu'est-ce que tu fais après? Comment tu t'arrives à te convaincre qu'il va falloir que tu en reperdes au moins une partie? Alors, les mecs me diront, ouais, mais moi, je sais exactement comment arrêter sans perdre. Évidemment, il y a toujours des guignols qui vont te promettre la lune. C'est pour ça que tous les champions que tu vois quand ils arrêtent les stéroïdes, les mecs, c'est ce que, comment, il y a un mec qui, comment, merde, il s'appelle Greg, je sais plus, il est toujours en train de se moquer d'eux en disant les mecs ils sont énormes et puis tu les revois 3 mois après, c'est Pee Wee Herman. Je sais pas si tu connais Pee Wee Herman, tu taperas.
Je connais pas.
Pee Wee Herman. Et tu verras comment sa carrière s'est terminée d'ailleurs, mais il a un physique.
Comment tu l'écris?
Greg Valentino, voilà. C'est Greg Valentino qui dit toujours la plupart des champions que tu vois énormes, en fait, dès qu'ils arrêtent, c'est Pee Wee Herman. Comment tu gères dans ta tête la dégringolade à l'arrêt des produits?
Ok, ben c'est intéressant justement parce que en plus c'est dans l'épisode que j'en ai parlé avec The Rob, grosso modo, en fait quand t'arrêtes, tu perds pas quoi. Tu perds, enfin, qu'est-ce que je raconte? Si, tu maintiens.
Les mecs sont bravo.
Non.
Tous les champions que je vois qui arrêtent,
Non, autant pour moi. Non, j'ai fait un lapsus. Au contraire, c'est quand tu arrêtes en fait, tu perds et que c'est un. C'est ce qu'il dit beaucoup dans ses vidéos et puis on a en parlé dans le podcast. Quand tu commences, en fait, c'est pour ne plus jamais t'arrêter ou alors ne commence pas, presque.
Parce que j'essaie de t'expliquer comment tu fais. Donc, déjà, tu pars. Quand tu pars, déjà, tu sais comment, tu connais la fin de l'histoire.
Eh ben ouais, ben c'est ça. Ben c'est pour ça que moi, je suis dans le même cas que toi, que c'est la promesse est intéressante.
Parce que les muscles, je les veux bien. Hein. Ça, c'est pas, je suis pas contre. Hein,
Une fois que t'arrêtes, tu reviens au départ.
Ouais, sauf que les effets secondaires, eux, ils perdurent alors que les muscles, ils sont plus là, quoi. Mais 10 kilos de muscles en plus, 5 kilos de gras en moins, je suis preneur. Hein. Surtout si en plus, t'as la gaule toute la journée.
C'est vrai. Ouais, il y a tout qui est bon.
Donc Mais je te dis, j'en ai vu depuis le temps, j'en ai vu passer du monde. Hein. Et des mecs qui sont même des champions de tous les... Et il y en a un paquet qu'on finit prédicateurs, des mecs que Jo Veller nous a présentés comme la nouvelle étoile montante, et qu'on finit prédicateurs de je sais pas quelle religion, qui sont devenus complètement tarés à la fin.
On en reparlera ça dans un épisode prochain de tout ce qui est la supraphysiologie et... Avec Laurent, comme je le disais tout à l'heure quand tu étais parti pisser. Avec Laurent et Erasme, je parlerai de tout ce qui est supraphysiologie. Et en fait, à partir de... Enfin, la limite entre quand est-ce que tu potentialises l'organisme et qu'à un moment donné,
ça, t'en sais rien.
Les effets
sont... Tu peux toujours raconter tout ce que tu veux, t'en as absolument aucune idée. Quoi.
Bon, on verra.
Je voudrais pas...
La thérapie... Non, mais t'inquiète, tu peux... la thérapie anti-âge, comme on appelle ça plutôt aujourd'hui. Là,
ouais, non, mais ça n'existe pas.
Ça, c'est quoi ton...
Ouais, non, mais ça n'existe pas, c'est juste du...
Toi, alors, à 45 ans, quand t'as la testo qui diminue, par exemple, tu...
Ben, moi, je te dis, j'ai commencé à la constater, je te dis, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, vers 25 ans. Concrètement, je veux dire.
Et prendre un substitut pour essayer de... En gros, c'est ce qui est dit, hein, la thérapie anti-âge, c'est à partir d'un certain âge, quand la testostérone diminue...
Ouais, non, mais attends, aux États-Unis, à partir de 20 ans, ils sont vieux. Donc, je te dis, ça n'existe pas. C'est des mots, c'est du marketing, c'est de la vente de médicaments. T'appelles ça comme tu veux, mais il y a pas de thérapie anti-âge, au moins à l'heure actuelle, si ce n'est peut-être de prendre il y a un seul médicament qui est estampillé longévité aux États-Unis, c'est la metformine. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ça.
Non, c'est pour le diabète en plus. Ça.
Non, c'est pour la, enfin oui, mais c'est pour la longévité. C'est le seul médicament longévité qui existe.
Ok. Reconnu. Et voilà, qui est utilisé pour le traitement du diabète 2.
Ouais, non, mais bon, c'est comme ça qu'ils se sont aperçus que les mecs vivaient plus longtemps que les non diabétiques qui prenaient pas le médicament. C'est comme ça qu'ils se sont dit merde, qu'est-ce qu'elle a cette molécule? Elle prolonge la vie chez des gens qui auraient dû mourir. Enfin. Les mecs qu'en prennent, ils vivent plus longtemps alors qu'ils auraient dû mourir beaucoup plus tôt puisqu'ils ont un diabète. Donc, tu regardes, comment il s'appelle le mec? Il y a un mec j'ai plus son nom, l'avoir comme ça, mais il y a un mec qui est spécialisé dans cette molécule et qui a lancé une étude, justement, à très grande échelle. Mais tu regardes, metformine, anti-âge, et c'est le premier médicament qui est reconnu comme... Et justement, il voulait que ce médicament soit reconnu, même s'il est... maintenant, il rapporte plus d'argent à personne. Reconnu pour comme médicament anti-âge, il disait le but c'est de lancer une nouvelle catégorie de médicaments. La metformine disparaîtra, mais pour lancer une nouvelle catégorie de médicaments et lancer le mouvement.
Quoi. Pour lancer un marché quoi.
Mais si tu tapes metformine, il y a un médecin qui. Est...
Je trouve pas le médecin, mais il y a plusieurs articles ouais, qui.
Oriental, non mais tu regardes metformine longévité, qu'est-ce qu'on peut taper comme mot-clé pour avoir le nom? Hein?
Non, j'allais dire Jean Stern, mais c'est celui qui a fait les premiers.
Non, pas du tout. Non, il a plutôt une consonance un peu de oriental, longévité, essay trial, T-R-I-A-L. Non, tu devrais avoir un nom. Enfin, un nom, le nom du test qui a été lancé sur la metformine. Bon, c'est un nom comme à l'américaine avec un jeu de mots. Et...
Alors, j'ai TAME, T-A-M-E, TAME, Targeting Aging with Metformine.
Voilà, c'est ça. Mais regarde qui dirige cette étude.
Et ce mec-là, c'est un médecin. Attends, je vais essayer de. Ah, ok. Nir. Ouf, putain, il a un nom.
Voilà, c'est ça.
Barzilai. Barzilai.
Ça doit être lui parce qu'il a une consonance, je me souviens, d'Orient. Et c'est bien TAM. Et donc, TAM. C'est le seul médicament longévité reconnu. Et tu verras que la testo, la GH ne sont absolument pas dans cette catégorie.
Et donc, ça veut dire que t'en prends. Et alors, tes tissus, ils vieillissent moins vite.
Ben, en théorie, oui, parce qu'en fait, pourquoi? Parce que tout, en fait, c'est un anti-anabolique, c'est ça le problème. Donc, ça ralentit tout ton métabolisme, en théorie, toutes tes cellules, et donc tu vieillis moins vite.
Mais le problème, c'est que tu peux pas faire de muscles avec ça, si ça ralentit le métabolisme.
Il y a du pour, du contre. Il y a les deux. Mais c'est le seul médicament anti-âge reconnu. À l'heure actuelle, et c'est pour ça que je te dis, les diabétiques qui auraient dû se taper plus de cancers quand ils prennent de l'insuline, etc., ceux qui tournaient avec la metformine, ils vivaient plus longtemps, ils avaient moins de cancers, d'où le TAM.
Alors ça, en France, c'est sous ordonnance, hein, donc impossible d'aller se
couper en termes. Ouais, enfin, c'est pas... Tu choqueras personne, les mecs vont te demander pourquoi tu veux ça, quoi, mais c'est pas... ça t'enverra pas en prison.
T'as essayé? Enfin, ça t'est déjà venu.
Non, j'en suis pas encore. Et puis de prendre un produit qui ferait potentiellement, je prends moins de muscles.
Ça va pas dans le.
Ben non, parce que je te dis, pourquoi ça. De toute manière, c'est pas difficile. Hein. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un cancer? Pourquoi les animaux, quand ils mangent moins, ils ont moins de cancer? Pareil, hein, si tu calmes ton métabolisme.
Ah ouais, parce qu'en fait, c'est un peu comme si tu accélérais le temps, en fait.
Ah oui, quand t'accélères nous, c'est ce qu'on fait tout le temps. On accélère, on a toujours le pied sur l'accélérateur. C'est ça l'anabolisme.
Donc il faudrait plutôt faire du cardio, arrêter tout. Mais. Des circuits légers. Circuits légers avec metformine, et puis là, on est bien.
Un inhibiteur de mTOR. Ouais. Alors que nous, on essaye d'activer mTOR, alors que lui, il inhibe.
Donc le bodybuilder, par définition, ne pourra. Enfin, c'est antagoniste.
De manger trop, d'être en surpoids et puis de tout le temps stimuler son anabolisme, c'est pas bon pour sa longévité. Par contre, de faire du sport, d'avoir des muscles plus forts, des os plus forts, c'est bon pour la longévité. Donc t'as les deux.
Mais ce qui fait que toi, personnellement, est-ce que tu te trouves pas tiraillé un peu entre les deux au quotidien?
T'es toujours tiraillé entre les deux. Ouais. De toute manière, la vie, t'es tiraillé entre plein de trucs. Donc,
Tiens, alors, un autre truc sur les hormones aussi, parce que ça m'avait un petit peu étonné.
On n'est pas dans les hormones, mais c'est pas une hormone.
C'est pas une hormone, mais je fais une transition un peu.
Il n'y a aucune hormone longévité, ça n'existe pas.
Bon, j'annule l'épisode avec Laurent. Non.
Non, mais je sais pas ce qu'il va te dire, mais il est prévu.
Ok. Pour revenir sur les hormones, je voulais
dire.
Oui,
mais pourquoi les hormones, ouais. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont. Toutes tes hormones, elles vont activer mTOR.
Alors, peut-être qu'on n'est pas dans la longévité avec les hormones, mais plutôt dans le bien-être ultra, tu vois, quand se sentir plus en forme, oui, se sentir mieux, mais pas forcément le côté de la vieillesse, quoi.
Sachant que tu vas sacrifier ta longévité.
Eh ben, tu sais quoi, c'est une question que je vais me noter, que je lui demanderai. Voilà.
Parce que, on a dit que pour l'instant, le seul médicament longévité, c'est, un inhibiteur de mTOR, enfin il y en a un deuxième, mais qui a des effets secondaires, qui est plus puissant, mais c'est pour ça que c'est pas celui qui a été retenu. C'est lui d'ailleurs qui a donné son nom à mTOR, la rapamycine, c'est inhibiteur de. Enfin, on cherche à inhiber un inhibiteur. Enfin, le médicament c'est la j'ai du mal à lire en français, mais rapamycine. C'est la metformine mais en plus puissant.
D'accord.
Mais donc tous les longévités sont des inhibiteurs de mTOR. Et donc toi, t'espères vivre plus longtemps en activant mTOR.
C'est contre-productif.
Il y a un problème quelque part.
Bon, c'est noté. Je lui demanderai. On en discutera. Sur les hormones, je voulais revenir juste sur la testo pour une petite question parce que quand je discutais avec Fred. Il disait que surtout quand tu es en sous-cure, donc tu prends de la testostérone et t'as une partie de la testo là, qui se transforme en œstrogène qui s'appelle l'aromatisation et en fait qui fait que t'as les effets de l'œstrogène quoi. Et que
c'est très variable, variable suivant les gens.
Et justement que certains, je sais pas, écoutez l'épisode. Certains pouvaient développer des changements d'orientation sexuelle quand ils avaient trop d'œstrogènes dans le corps. Et alors là,
enfin c'est pas ce que j'ai entendu récemment.
Peut-être que je l'ai mal compris, mais.
Non, mais parce que comment ce qui fait le développement sexuel d'un homme quand il est tout petit, c'est l'œstrogène. Donc.
Parce que soi-disant, certains sous-cures, ils pouvaient devenir gays ou en tout cas, ça révélait des.
Parce que non, mais c'est pas difficile. T'as envie de baiser. Enfin, si, parce que moi, j'ai connu des mecs qui avaient plus du tout envie de baiser. Mais il y avait un mec qui me racontait ça. Putain, ouais, j'étais chez ma copine, je l'ai baisé. Je sors, je vois un pigeon, j'avais envie de l'enculer. Donc tu vois, alors je sais pas si tu donnes un terme, si zoophile quoi, le mec devient aussi zoophile, bah il a envie de baiser. Donc après c'est pas forcément une orientation sexuelle, mais t'as envie de baiser. Donc quand tu as un très très gros appétit sexuel, c'est peut-être ça qu'il disait. Mm. Mais après, il y a de tout. Hein. Il y a des mecs, ben Coleman, il a fait 200 gosses. Il a repeuplé le Texas, hein, Coleman.
Il a répandu ses gènes de.
Ah bah lui, ouais,
de
ouais.
Powerlifter et de body.
Mais il y a des mecs, par contre, ils bandent plus du tout, ils ont plus envie de baiser. Donc, de toute manière, les effets sont imprédictibles.
Ok.
Il y a ce qu'on appelle décadique. Alors ça, c'est un peu à l'américaine, mais je pense que c'est parce que c'est un inhibiteur du NO, mais que le déca ne favorise pas l'érection, par exemple. Chez beaucoup.
Mmh. Ok, qui a une catégorie.
Donc, c'est très difficile de dire oui, tout le monde va réagir.
Évidemment, tu
moi, je connaissais un pote au VEDER. Le mec, plus il prenait de produits, plus il devenait gras. Pourquoi ? Parce que ça lui ouvrait tellement l'appétit qu'il bouffait, donc il devenait gras. Donc c'était pas le but ultime de sa cure. Quoi.
Toi, la muscu, tu penses la muscu, la longévité, enfin tout ça, c'est 24 heures sur 24, tu t'entraînes tous les jours.
Ce que les gens ne comprennent pas, parce que c'est quand même mon métier aussi. Donc,
oui, aussi, en plus.
Toi, c'est un peu comme le chauffeur de bus, tu le vois le matin quand tu prends ton bus, et puis le soir, quand tu reviens, il est encore au volant du bus, et puis tu te dis, mais quel con celui-là. Toute la journée, il conduit, il pense à conduire, mais quel crétin ce mec-là. Donc, tu vois, c'est mon métier. Donc, par analogie au chauffeur de bus, mais je pense pas qu'à ça toute la journée. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, oui, je ne communique que sur ça. Donc, les mecs ont l'impression que, comme toute ta vie doit être sur les réseaux sociaux, les mecs ont l'impression que je fais que ça, que je pense qu'à ça. Mais c'est mon métier et sur les réseaux sociaux, c'est pas ma vie que tu vois, c'est mon métier. Vrai.
Bien sûr.
Mais je te dis, c'est comme le chauffeur de bus. Si le prochain chauffeur de bus que tu vois, mais t'es un con, toi. Tu penses qu'à conduire, mais t'es vraiment qu'un con. Je te vois le matin, t'es en train de conduire, et le soir, je reviens, t'es encore en train de conduire. T'as que ça dans ta vie, quoi. Donc tu vois, les mecs qui te jugent sont pas forcément très très fins dans leur.
Je vois.
Dans leur tête.
Est-ce que si on reste sur la santé, la longévité, est-ce que tu consultes? Est-ce que tu consultes des spécialistes? Est-ce que tu vas avoir des kinés? Est-ce que tu vas avoir des ostéos? Qu'est-ce que t'en penses?
Kinés?
Amuse-toi.
Des kinés? Merci. Non, moi, j'essaie de pas rire. Je te dis, je consulte ceux qui connaissent le mieux, c'est-à-dire ceux qui publient leurs données. Tu vois, si je m'intéressais à Tam, vas-y, redonne-moi, t'as plus le nom du mec, mais il a un nom plus simple que ce que tu dis, mais si je veux, entendre parler de longévité, tu vois, par exemple, je regarde ce que le mec-là raconte. D'ailleurs, c'est pas mal, ses conférences. Au début, ça, comme il a un accent et tout, t'es un peu... Mais c'est très intéressant, ce qu'il dit.
Nir Basilaï.
Ouais, ça ne vaut pas se prononcer comme ça, parce que...
Sûrement pas, mais c'est le nom que j'ai, là.
Voilà, tu vois, si je veux un spécialiste de la longévité, je vais voir ce mec-là, etc.
Ok, pour la longévité.
Un spécialiste du collagène, un mec qui s'appelle Barr, avec deux A.
Raymond.
Voilà.
Raymond Barr.
Donc, j'ai pas besoin de, non, c'est pas Raymond. Mais j'ai pas besoin de consulter un mec qui connaît moins que moi dans le.
Mais par exemple, si t'as une douleur, tu vas jamais voir, si t'avais une douleur, tu vas jamais voir un kiné, tu vas jamais voir un ostéo, un naturo, peu importe, toutes ces, vas-y. Vas-y, dis-moi, je suis curieux.
Ben non, kiné, non. J'ai beaucoup de respect pour les kinés. Ma sœur est kiné, mais je vois bien que son niveau de connaissance, quoi.
Il est un peu,
elle
léger.
Beaucoup sur les petits enfants, tu sais, pour qu'on de la morve dans le.
C'est beaucoup. Kiné respiratoire. Hein,
ouais. Mais non, je te dis, je vais voir les meilleurs spécialistes, enfin, je vais pas les voir, mais je regarde ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent, les meilleurs spécialistes mondiaux dans leur domaine.
En fait, t'es ton propre médecin, ton propre thérapeute.
Un mec qui est pas spécialiste, qui est pas au top du top, ça m'intéresse pas. Tu vois, le mec qui répète vaguement sans comprendre des travaux qui ont 20 ans de retard, ça m'intéresse pas du tout.
Ça, tu penses que la kinésithérapie, c'est
mais
beaucoup
non, mais qu'est-ce que
mais c'est une question, hein. Moi,
j'ai rien à en dire.
de spécial. Ouais.
Mais tu demandes, tu vas voir ton kiné, puis tu lui demandes ce qu'il pense du collagène, par exemple. Tu verras quel niveau il a réellement dans sa connaissance physiologique.
Bon, ben, en fait, tu t'auto-traites. Mais quand tu as une douleur, par exemple, que tu as du mal à faire passer.
J'essaye de ne pas en avoir.
Ouais.
Bah, ça t'est arrivé. C'est justement là où joue l'entraînement. Ouais, non, mais j'essaye de moduler mon entraînement pour, s'il y a une petite douleur, qu'elle ne devienne pas grande.
Et qu'est-ce que tu as déjà eu auparavant qui t'a fait prendre de l'expérience en termes de blessures, admettons? Qu'est-ce que tu as déjà eu, toi?
La première et la seule grave blessure que j'ai eue. J'avais un halter de 40 ou 45 kilos, ou développé halter comme ça au-dessus de la tête. Et puis, on avait des bancs au VEDER, c'était du ski nautique, les bancs. Ils glissaient, ils étaient pas... Et le banc, il a glissé, moi, j'étais pas assez concentré. J'ai le bras qui est parti comme ça en arrière, j'ai entendu crack.
Le
pec. Et justement, j'ai consulté un kiné qui m'a dit « Oh, ben, dans une semaine, c'est bon. »
Et c'était quoi?
Ah ben, ça a duré... Même maintenant, je sens que l'épaule, elle est toujours pas. Enfin, ça va mieux, mais ça... j'ai eu mal pendant 5-6 ans au moins.
Ok.
Et la personne qui m'a fait. Qu'est-ce que c'était? La personne qui m'a fait. Enfin, qui me l'a fait partir au moins pendant un moment. Merde, comment ça s'appelle? Ah, c'est un truc pas du tout reconnu. Et moi aussi, j'y croyais pas du tout. On m'a dit, tiens, va la voir. Je t'offre ça pour ton anniversaire. C'est ma copine qui m'a dit, je t'offre ça pour ton anniversaire. Et c'était, merde.
C'est quoi, une profession?
Une hein?
Une
ouais, c'est une profession. Et alors, elle m'a, tu vois, je lui ai dit, voilà, ouais, j'ai mal à l'épaule et tout. Elle m'a touché là, comme ça. Hein?
Les yeux?
Tu vois? Mais non, les cils, un peu comme ça. Puis après, elle a fait ça, comme ça.
La tête, ouais, les cheveux.
Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et je suis sorti de là. J'avais mal à l'épaule. Elle n'avait pas touché l'épaule. J'avais mal. Putain, je me suis dit, quelle conne, putain. Elle m'a niqué l'épaule, cette conne. Et après, pendant 2-3 ans, j'ai plus eu mal du tout. Et par contre, j'y suis retourné une deuxième fois et ça n'a pas du tout... Ça a marché une fois, mais pas deux.
Et c'est quoi? C'est du magnétisme ou c'est...
Un truc un peu comme ça, c'est pareil. C'est le nom, quelqu'un... Ah, c'est bête qu'on ne soit pas en direct, quelqu'un nous aurait dit le nom que ça, mais c'est c'est très connu comme c'est des trucs.
Ouais. Je sais pas. Et la médecine chinoise, bon, qu'est-ce que t'en penses alors? Parce que
ça devait être un peu le même. Mais pareil, on n'explique pas. Enfin, si maintenant de plus en plus avec les méridiens, les machins, les points target, on explique de plus en plus certains. Mais c'est de l'empirisme. Après, la médecine chinoise, c'est grand. Hein. Donc ça veut tout dire et rien dire. Mais je te dis là, ce qu'elle m'a fait. Pareil, hein, attends, l'autre, elle m'a touché les cils un peu là. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Ouais,
mais je peux te dire que j'ai dégusté quand je suis sorti. Hein. J'ai pas eu mal tout de suite. Mais après, je marchais dans la rue, j'étais là. Putain, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait à l'épaule? Même quand je m'étais blessé, j'avais pas eu mal comme ça. Puis je te dis, j'ai eu mal 24 heures. Et puis après, mais vraiment plus rien, quoi. Donc,
en fait, t'as jamais su. Enfin, y a jamais eu de diagnostic précis sur l'origine, la cause de la douleur, en fait.
Bah, si, de toute façon, c'est que j'ai pété toute l'épaule qui est partie dans le mauvais sens. Hein.
La quoi, là-dessus, quoi, le pec,
bah là,
la chromoclave.
Ouais, j'ai arraché. Heureusement, j'ai quand même, je me suis repris, mais j'ai entendu.
Et ça, c'est le seul truc que t'as eu de tout.
C'est du shiatsu.
Ah, shiatsu.
Spécialiste du shiatsu.
Voilà, bon, je connais pas du tout.
Bah, c'est pour te dire à quel point, tu vois, je partais convaincu. Quoi.
J'invite, bah, peut-être que j'inviterai quelqu'un qui fait du shiatsu, il pourra nous expliquer un petit peu.
Et le problème, c'est que ça n'a marché qu'une fois. Quoi.
Bon, ben, la fois qui suffisait. C'est le seul truc que tu as eu, l'épaule, ou tu as déjà eu d'autres blessures?
Ah ouais, parce que c'est là que je me suis dit, oui, aïe, aïe, c'est pas comme dans les magazines de Joe Véder, parce que c'est aussi con ce qu'on nous dit aujourd'hui, mais Joe Véder, il nous disait... Les blessures, c'est pour les perdants. Alors, est-ce que toi, t'es un gagnant, ou t'es un winner, ou t'es un loser? Je suis un winner, moi. Alors, tu peux pas te blesser. Et aujourd'hui, on nous raconte la même connerie en disant, tu utilises une forme d'exécution impeccable, irréprochable, tu peux pas te blesser. Bah, c'est aussi con que ce que nous disait Joe Véder. Mais bon, après, ben, c'est là que je me suis dit, oui, aïe, aïe. J'ai classé les mouvements en deux catégories. Les mouvements dangereux, et les mouvements pas dangereux, et surtout les mouvements dangereux et inutilement dangereux. Parce que avec halter, d'avoir les bras en l'air au-dessus de la tête, c'est complètement con. Donc après, j'ai fait du cadre guidé. Tu vois, ça, c'est ça qui m'a sûrement poussé vers les machines.
Et alors, ceux qui disent que dans un cadre guidé, tu vois, la barre, elle suit une trajectoire qui n'est pas forcément, elle suit une trajectoire qui t'est imposée, mais ça peut être délétère. Ça.
À l'époque, un, c'est tout ce que j'avais, et deux, c'est ce que je t'expliquais, ça rejoint ce que je t'expliquais. Il faut éviter tous les mouvements linéaires. Là, t'es typiquement sur un cadre guidé, t'es typiquement sur un truc linéaire. Donc, mais c'était déjà une grosse avancée pour moi, parce que je pouvais plus me planter, je pouvais plus avoir le bras. Tu vois, je limitais les dangers, j'en créais d'autres. Et c'est pour ça que maintenant, le mieux, c'est les machines, donc qui ont un mouvement circulaire. Et au cas où de problème, tu lâches et puis t'auras juste une petite frayeur, mais t'auras pas de pathologie tissulaire qui en résulte. Et c'est comme ça, tu vois, mon cheminement pour arriver aux machines.
D'accord.
Aux bonnes machines, parce que toutes ne sont pas circulaires. Et toutes ne sont pas circulaires dans le bon sens. Les machines à épaule en particulier qui tirent le bras vers l'arrière.
Et qu'est-ce que tu penses de l'ostéo, par exemple? Et tu peux y aller, tu vas pas me vexer si jamais tu as du mauvais à dire ou des mauvaises expériences.
Bah, c'est ostéo.
Ouais.
Bah, c'est quand même un peu mieux que les kinés, je pense.
Ah, bah, ça me fait plaisir déjà. Je me sens privilégié. Alors, est-ce que tu as déjà consulté ou pas?
Non. Le mec que j'ai vu là qui m'a dit dans une semaine, t'inquiète pas, c'est rien, dans une semaine ça ira mieux.
Oui, mais lui il était kiné. Oui, kiné ostéo.
Ouais, il était kiné. Okay.
Parce que l'ostéo, les principes de l'ostéo sont un petit peu différents par rapport à kiné.
Oui, mais pareil, je les partage pas non plus. Dire tiens, je vais te réajuster, etc.
Par exemple, qu'une tension, une douleur au niveau de l'épaule peut trouver son origine au niveau cervical, par exemple. Ça, regarde.
Ouais, non, mais ça peut, mais c'est pas obligé non plus. Hein.
Non, mais bien sûr que c'est pas obligé.
Tu vois, mon bras qui est parti en arrière.
Ça, c'est traumatique.
Je savais exactement pourquoi j'avais mal à l'épaule. Et la plupart des blessures en culturisme, elles sont assez directes.
Ouais, ouais. Ça c'est pour tout ce qui est traumatisme, ou si tu veux, il y a un facteur déclenchant précis.
Il y a des facteurs aggravants, mais la plupart des pathologies en bodybuilding, c'est une blessure. Tu vois, je sais pas si t'as vu, moi, on me l'a envoyé 200 fois. Comment, tu sais, le mec au développé couché qui s'arrache le pec.
Oui, oui.
C'est pas parce qu'il avait le machin, etc. Hein, c'est...
Non, mais bien sûr, mais parce que là, on est sur un vrai trauma, la charge, elle est hyper lourde.
Ouais, non, mais la plupart des vraies blessures vraiment graves comme ça en bodybuilding, c'est souvent très direct, et faut pas aller chercher midi à 14h. Le mec, il fait du squat, il se nique le dos.
Ce qui est pas mal, c'est après, déjà d'avoir un bon équilibre musculaire et une bonne.
Ouais, mais après, il y a évidemment tout un environnement après.
Voilà, c'est vrai que l'ostéo pour les sportifs, il travaille beaucoup sur l'environnement.
T'as dit le terme. Je crois que le sportif est plus les blessures sportives sont plus avec tout un environnement. Je dis pas qu'en bodybuilding, il n'y a pas d'environnement. Mais les blessures en bodybuilding, c'est vraiment de l'usure, c'est vraiment, tu vois, le bourrin, quoi.
Est-ce que tu pourrais pas, par exemple, sur une épaule, avec un travail à la fois de mobilité et un travail de rééquilibrage musculaire, tu vois, qui est un petit peu moins body, tu vois, éviter justement trop vite de l'usure sur des exercices, tu vois. Je dis un truc à la con, mais une épaule déséquilibrée. Sans aller chercher
des trucs très compliqués. Si je te dis quand t'arrives, tu chauffes l'épaule. Déjà, tu vas faire l'infra-épineux, donc forcément que tu vas le chauffer et deux le renforcer. Ça t'évite un peu déjà les déséquilibres. Tu vois ce que je veux dire? Un bodybuilder qui prend pas de stéroïdes, parce qu'en général c'est ça qui te rend raide comme un piquet, mais un mec qui fait tous les muscles, a priori il a pas vraiment de déséquilibre musculaire. Bon, après, je sais que je rêve un peu, hein, parce que les mecs, ils font tous les pecs, le dos, tiens, et puis les cuisses, il les fait pas, ou sinon un peu l'avant, il fait pas les, comment, il fait pas les ischios, les mollets, il sait même pas ce que c'est, enfin, c'est sûr que...
Mais ce qui est bien, c'est que l'arrière vraiment... d'épaule, au moins, réagit bien avec les stéros, donc il y a moins un autre bon...
Ouais, mais en masse, mais pas forcément en force, parce que... Les mecs ont tendance quand même à être, puis ils les échauffent pas de toute façon. Donc tu vois déjà sans aller chercher rééquilibrage machin etc. Est-ce que si t'échauffes tes rotateurs déjà avant chaque séance, tu vois déjà t'as un double bénéfice parce que tu peux rééquilibrer etc. Mais si tu t'échauffes pas bien avant chaque entraînement, donc tu vois je vais au plus simple en fait.
Bah, de toute façon si on fait le tour en fait on réinvente pas exactement la roue mais c'est toujours. C'est bien s'échauffer, avoir un bon équilibre, travailler un petit peu les rotateurs de chaque côté.
Ouais, non, mais l'équilibre, il vient tout seul si tu entraînes tous les muscles, quoi. Et quand j'entends entraînement pour les muscles, c'est pas le mec qui fait que du développé couché pour avoir des pecs comme ça. Et par contre, la mobilité, je suis plus circonspect par rapport à ça.
C'est-à-dire?
Ben, dans les sports de force, t'as pas intérêt d'être trop mobile. T'es pas obligé d'être raide comme un piquet, mais t'as besoin d'être raide pour que l'articulation, quand tu vas lui mettre une pression énorme, elle soit pas, on n'est pas dans les danseurs de ballet.
Ouais. Et non, mais c'est, je t'avais déjà entendu dire ça justement, que être trop raide, enfin, ça dépend sur quel sport t'es, ça dépend pour quelle capacité.
C'est un équilibre un peu, cette manière, t'es vraiment sur le fil du rasoir, parce que t'as besoin d'être très raide, mais pas au point de te déchirer pour un oui, pour un non. Et t'as besoin d'un peu de souplesse, mais pas au point de, quand tu vas prendre, parce que on s'entraîne quand même avec des charges dont le corps n'est absolument pas fait pour supporter, hein, même un mec qui est pas très très fort. Donc ton articulation, elle va avoir qu'une envie, c'est de se faire la malle.
Et si on n'est pas dans la recherche d'une performance, mais que on est on reste dans la longévité sur quelqu'un qui est pas un bodybuilder, mais qui est quelqu'un lambda qui s'entraîne pour se maintenir le plus en forme, ton avis sur les étirements pour le coup, les étirements, la mobilité et la souplesse?
Je suis un peu circonspect sur les étirements.
Ça a aucune étude qui montre que
Si, y en a plein. Justement, les études vont plus. Alors au début, on nous a dit c'est fantastique, faut s'étirer, ça c'est les années 70. Et puis on s'est aperçu que les mecs qui s'étirent beaucoup, qui sont souples, et c'est ceux qui se blessent le plus. Donc c'est un facteur de blessure. Et pour tous les sports, tout sport compris. Et j'avais un truc comme ça, pareil sur les. Le pire, fait une étude, puis je voulais faire une vidéo et c'était ils avaient fait des études sur le monde du cirque et sur les acrobates. Parce que tu peux te dire, les acrobates, il faut qu'ils soient souples. Mais ils montraient que ceux qui s'étiraient avant chaque séance, etc., ils se blessaient plus que les autres. Oui. Alors que c'est vraiment un endroit où tu as besoin de souplesse.
Ok, parce que c'est s'étirer normal, avant une activité.
Oui, non, mais plus t'es souple, moins tes articulations, elles seront tenues. Quoi. Malheureusement, c'est toujours à double tranchant. Ouais.
Donc, faut trouver le.
Rester raide.
La bonne justesse entre savoir se raidir pendant l'effort et puis savoir être mobile, parce que là on est peut-être très sur le sportif, mais par exemple celui qui fait 2-3 heures de sport par semaine, donc tu vois un petit peu léger, qui va faire son full body à la salle, qui revient et qui en fait passe 8 heures de sa journée assis devant un ordinateur et qui a les épaules vers l'avant, qui a tout ça, lui
là, faudrait plutôt que de lui dire étire-toi machin, je lui dis apprends à t'asseoir. Achète une chaise ergonomique et
comme
puis
moi,
ça t'évitera de vouloir compenser toutes ces merdes.
Ouais. Ou alors travaille debout.
Ouais, de temps en temps travaille debout. Mais bon, de se foutre dans la merde et puis après, tu vois ce que je veux dire, d'être mal assis, sachant
compenser,
que tu vas être
oui.
mal assis, en se disant que tu vas compenser, ça marche pas.
Et autant.
Faut attaquer le problème à la racine, oui.
Ouais, mais ceux qui n'ont pas le choix de. Bon, là, on a un peu plus le choix parce que.
T'as toujours le choix d'être bien assis ou mal assis.
Et alors, c'est quoi être bien assis pour toi, par exemple? Tu m'as dit chaise ergonomique, c'est le dos droit.
Ben non, justement, c'est plutôt le dos court. Après, si tu peux, ben, mais oui. C'est plutôt d'avoir...
Quand je dis le dos droit, c'est l'inverse de d'Avachi, tu vois, c'est se redresser.
Ben voilà, voilà. Et puis d'avoir, tu sais, ils vendent des trucs pour les les lombaires.
Ouais, une espèce de coussin
ouais,
que tu
viens. Ben oui, mais ça m'a vachement aidé de mettre ce truc-là, parce que moi aussi, je passe beaucoup de temps assis à mon ordinateur. Ça m'a vachement... D'ailleurs, j'en parle à tel point, j'en parle dans le prochain bouquin. Ça m'a vachement aidé pour le dos.
Ben, en parlant de ça, tiens, le prochain bouquin, est-ce que tu l'écris... Non, c'est sur les blessures ou tu parles d'un autre ?
Les pathologies, ouais. Ouais. Les pathologies. Ouais.
Tu l'écris en collaboration avec quelqu'un d'autre ?
Ben, ouais, enfin avec les dessins de Lavier, mais si j'arrive à avoir les dessins que je veux, ce qui n'est pas évident.
C'est-à-dire ?
Non, mais enfin, je lui avais demandé un certain nombre de dessins, mais il n'a pas l'air motivé pour me les faire. Donc, il faudra que je fasse sans les dessins.
Fred, faut faire les dessins, putain, tu déconnes. On veut voir le bouquin sortir hein, avec les vrais dessins. Ça va parler. Je m'étais noté en plus. Hein, ça va parler de. Est-ce qu'on peut avoir un petit teasing ouais, sur le prochain
bah, toutes les... Si, tout, enfin, toutes les pathologies. C'est... Après, on va parler des pathologies, mais on va pas dire t'as mal au dos, mon petit poussin. C'est surtout des solutions, plus que la pathologie elle-même. On va pas décrire toutes les pathologies possibles et imaginables que les mecs peuvent se. On va parler des grandes pathologies et surtout des solutions.
Comment uniquement les du sportif ou de la muscu précisément ?
Non, du bodybuilder.
Bodybuilder,
bodybuilder uniquement. Ouais, bah non, parce que déjà les pathologies en bodybuilding c'est énorme. Alors si on commence à attaquer tous les, parce que c'est pas du tout les mêmes. Le bodybuilder c'est rare qu'il s'arrache le tendon d'Achille ou qu'il se déchire l'arrière de cuisse. Des blessures, enfin des pathologies qui sont hyper classiques chez les sportifs.
Parce que le bodybuilder, c'est souvent la coiffe de l'épaule,
ouais, non, mais,
le bas du dos.
De toute manière, c'est pas difficile. Hein. Quand tu t'es niqué soit le dos, soit les épaules, t'as fait 90% des problèmes.
Ouais. Le cou aussi, mais un peu, cervical.
Hein
les cervicales, ah ben non, mais, moindre mesure.
Ouais, mais enfin, ouais, non, mais après, de toute manière, partout où ça peut faire mal, ça fera mal. Mais le gros du bodybuilder, c'est épaule, dos, enfin lombaire. Hein. De toute manière, la population, c'est lombaire. Mais c'est pas du tout ce qu'on retrouve chez les sportifs. Quoi. C'est pour ça que je te dis, on fait uniquement bodybuilding, sport de force.
D'accord.
Pour élargir un peu. Hein.
Et est-ce que, du coup, le squat d'Oran est si... parce que peut-être que tu vas pouvoir me répondre sur ça, justement Est-ce que c'est le facteur numéro un des hernies discales chez le bodybuilder ?
Non, c'est ce que je dis un peu, pour rigoler ou sans rigoler. Le bodybuilding ne donne pas de hernie discale. La hernie discale, tu l'as, si tu as plus de 18 ans, tu as ta hernie discale déjà, tu la couves.
Là où tu la couves.
Voilà, tu la couves déjà. Donc le bodybuilding ne fera qu'aggraver la hernie discale que de toute manière tu as.
Ok. Donc, alors.
Donc, tu vois, c'est rassurant de savoir que tu peux squatter le dos rond, ça te donnera pas une hernie, ça va juste très fortement aggraver celle que tu as déjà.
Ouais, bon, ce qui, de toute façon, est à bannir dans tous les cas.
Oui, mais ça te donnera pas une hernie. Dans l'absolu, si on veut les gros titres,
ouais.
Le bodybuilding ne donne pas de hernie. T'inquiète pas, tu l'as déjà sans.
Ça fait un bon titre.
Hein,
ouais.
On a les chiffres, hein, à partir de 15 ans, c'est... Pourquoi à partir de 15 ans ? Parce que jusqu'à 15 ans, t'as tous les facteurs de croissance, de régénération des disques, et à partir de 15 ans, ils te disent « Salut mec, j'ai assez, j'en ai déjà marre !» Et donc, à partir de 15 ans, t'as les disques qui dégénèrent avec rapidement la hernie qui apparaît, au moins une. Même si ça fait pas mal, hein. Mais quasiment toute la population à 20 ans a sa petite hernie.
Et est-ce que c'est quelles sont les différentes causes des douleurs du bas du dos, des douleurs de dos en fait quand tu fais de la musculation est-ce qu'il y a surtout l'aggravation de l'hernie ou il y a d'autres choses je pense à des équilibres musculaires, à des problèmes de placement du sacro.
Ouais, mais il peut y avoir plein de facteurs, mais le principal c'est que t'écrases ton disque et puis si possible avec les vertèbres. Toi, si tu l'écrases, ça peut être plein de facteurs aggravants, mais En gros, c'est ça. Puis tu vois, tu l'as dit toi-même, c'est pas forcément la muscu qui est le plus dangereux. C'est toute ta journée, t'es assis et mal assis.
Eh ben oui, c'est ça. C'est que si en plus t'es en flexion lombaire toute la journée, que t'as une tendance à délordoser, que derrière tu vas mettre du poids dessus, effectivement, j'imagine que tu mets le poids déjà sur quelque chose qui est pas bien droit.
C'est toujours un coup. Et si t'avais pas déjà tout ce facteur aggravant d'être mal assis, le bodybuilder aurait déjà moins mal au dos. Ça veut pas dire pas mal au dos, parce que de toute façon, il va s'employer à se faire mal au dos jusqu'à ce qu'il s'en aperçoive, mais.
Les solutions que vous avez proposées, est-ce qu'il y a des trucs qui sont genre un peu révolutionnaires? Il y a du jamais vu
Ah ben c'est pas du jamais vu, je reprends ce qui est scientifiquement, mais la seule différence, c'est que les feux de
pour donner envie.
Non mais tu vois, on a parlé de comment du collagène de la K1 sur le plan, donc on aura sur le plan nutritionnel, on aura sur le plan des techniques de prévention. Parce qu'on prévient rarement, on aura toutes les techniques régénératives qu'on peut faire à la salle, et plus toutes les techniques régénératives entre guillemets technologiques de récup. Mais le but, c'est de ne pas avoir mal et de mettre en place toute une stratégie régénérative en amont, avant d'avoir mal. Ça, c'est l'idéal. Mais bon,
parce que. Bon, je te le dis,
il y a de l'avier. Hein.
Ouais, tout le monde.
Le mec, il achètera le livre parce qu'il
a un souci.
Parce qu'il a un gros souci.
parce qu'il a un gros souci. Mais c'est vrai.
Ouais, parce que avant d'avoir un gros souci, le mec, il sait tout. Il est indestructible, c'est Superman. En cas de problème, il saura ce qu'il faut faire. Et puis, quand il a un gros souci, c'est là qu'il achètera le livre. Donc, c'est pour ça que je lui dis, je m'attends pas à ce que ça se vende à des millions d'exemplaires.
Mais 9 rendez-vous sur 10, même plus que ça, qu'est-ce que je raconte? Des gens qui viennent en consultation d'ostéo, puisque bon, je suis ostéo ici à Montréal, des bilans préventifs, j'en ai jamais. C'est que quand.
C'est normal, parce que tant que t'as pas mal, t'es Superman. Donc,
Alors, ça arrive uniquement sur ceux qui sont focus sur leur santé, tu vois, qui veulent, et puis qui t'ont déjà vu et qui ont pris un certain niveau de conscience. Et qui viennent régulièrement pour essayer de voir si tout paraît dans les normes, entre guillemets. Mais c'est rare, hein, c'est extrêmement rare. Hein.
Ah bah oui, c'est normal. Et moi, le premier, je te dis, moi, ce qui m'a vraiment ouvert c'est quand je me suis niqué le.
Oui,
parce que j'avais l'esprit Jovénère. Tant que je suis un winner, je peux pas me blesser, quoi.
Mais c'est ce
qu'on raconte aujourd'hui.
C'est ce qui fait aussi les enfants. En fait, il faut qu'ils tombent pour apprendre, il faut qu'ils se fassent mal pour comprendre qu'il faut pas jouer ici.
Ouais, enfin, faut qu'il tombe un certain nombre de fois, peut-être.
Ouais, c'est vrai. Bah, mais bon, faut pas qu'il tombe au mauvais endroit, sinon c'est trop.
Et mais la plupart des culturaux, de toute manière, ils ne comprennent ce qu'on dit qu'une fois qu'il est bien trop tard et qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que tant qu'ils en sont pas là.
Ils disent bon.
Bah ouais. Ils savent tout et il n'y a pas de problème et ils gèrent.
Ok, bon, très intéressant. Les dernières petites questions rapidement avant de conclure, parce que ça fait déjà, on va s'approcher des 3 heures. Est-ce que toi, personnellement, t'as peur de vieillir physiquement ou pas du tout?
Bah, c'est pas que j'ai peur, j'ai pas tellement envie de vieillir, mais j'ai pas le choix non plus. Donc, tu vois, je me fais tous les matins, je me réveille, j'ouvre un œil, un, je suis toujours vivant, deux, ça va, j'ai pas trop mal quelque part. Tu sais, c'est ce qu'on dit, quand on est vieux, on dit on est en bonne santé quand on a pas mal deux fois de suite au même endroit.
Ouais. Ouais, ou le tamalou, à partir d'un certain âge, il te faut le truc du tamalou qu'on dit, mais quand t'es sportif ou quand t'es
tamalou, comme. Non, ça je connais pas, mais.
Non, le fameux ce matin tamalou. Attends, je pensais à un truc sur le fait de. Oui, non, si c'est ça. Toi, en ce moment, t'as aucune douleur là. Par exemple, là comme t'es là, à l'aise,
si,
tranquille, tu sens aucune douleur.
Si cet avant-bras, il est je peux pas forcer autant que je veux sur mes biceps, parce que l'avant-bras, les genoux, faut que je fasse hyper gaffe, parce que je peux. Après, ouais, je suis. C'est pas que j'ai mal, c'est que je sens que je peux très très facilement me faire mal. C'est la différence entre un débutant qui aura du, même s'il veut, il aura du mal à se faire mal. Et plus tu vas, plus tu sens que c'est facile de te faire mal.
Ça, c'est dû à la fragilité des tissus quand tu vieillis, ah, au manque de récupération.
À un moment, ben, non, mais un, tu muses tes tissus. Deux, tu gagnes en force quand même. Donc, plus tu gagnes en force, plus c'est facile d'engendrer une blessure. Et puis, il y a le vieillissement.
Plus tu, donc, tu te rapproches de la limite de...
C'est que la limite, elle est largement dépassée même.
D'accord. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, ou même peut-être 20 ans, ou peut-être 30 ans, quand tu reviens des États-Unis, tu vois, peut-être à cette période-là où t'es à fond dans t'es toujours à fond dans la muscu, mais si on revenait à cette période-là, c'est quoi que t'aurais besoin d'entendre d'un point de vue santé, santé longue?
Enfin, moi, le gros truc, si je pouvais, c'est ce que je dis aux gens, ça les fait rire ou ils pensent que c'est commercial, mais la méthode de Lavier 1, 2 et 3, je les ai écrits uniquement pour moi.
Si t'avais, c'était plus jeune.
Parce que si je pouvais revenir à mes débuts, je me serais passé la méthode de Lavier 1, 2 et 3 en disant, voilà, bonhomme, voilà tout ce qu'il faut que tu saches pour t'entraîner. Tu sais, le film que je cite tout le temps, qui est plus profond qu'il n'en a l'air, c'est Retour vers le futur. Tu vois, la DeLorean.
Bien sûr.
Tu sais, il y a un moment, il y a le vieux qui arrive avec l'almanach sportif.
Ouais, avec tous les résultats sportifs. Ouais.
Au jeune en disant, et puis l'autre, il n'en a rien à foutre, et puis l'autre, il lui tape, il dit, écoute-moi, comment. Et puis l'autre, l'almanach, il le jette à la poubelle. Jusqu'à ce que s'aperçoive que, non, fallait pas le jeter à la poubelle. Mais en fait, tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé la muscu, c'est ce que j'ai. En fait, les livres, je les ai écrits pour moi.
Okay. Le 3 est pas pour les débutants, hein, parce que moi, j'ai les 3, mais je sais que le 3, il est quand même très avancé.
Le débutant, ce que les gens, ils comprennent pas, c'est que les mecs, ils pensent que 100% du livre va leur être, mais peut-être qu'un débutant, 20% du livre va lui être
utile, ouais.
Va le comprendre. Et puis 80% va lui passer au-dessus de la tête. Mais un jour, il va avoir un problème.
Il va piocher dedans.
Et puis au lieu d'être comme un con merde, il va se dire, mais ce qui m'arrive, je l'ai déjà lu dans le bouquin et les solutions sont dans le bouquin. Donc il va reprendre le bouquin et donc il sera tout de suite mieux guidé, mieux comprendre son problème, mieux comprendre ce qui lui arrive. Même si c'est pas à sa première lecture que c'est pour ça que les gens disent je lis tout le temps parce que à chaque fois je comprends quelque chose de nouveau ce qui est normal et ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Donc il est bien pour les débutants, mais le débutant, c'est vrai qu'il en tirera pas, il en tirera peut-être 20% seulement pour le prix. On dirait que les prix ils valent 10 000 euros, nos livres c'est 25 euros, donc
et alors
il y a 300 pages
exactement, et
même s'il y a que 30 pages qui t'intéressent quand tu débutes, pour 20 euros ça fait pas cher la page, quoi.
Non, ça fait pas cher la page, mais tu vois et ça fait pas cher le livre du tout et ça fait pas cher l'information, ça on est d'accord, mais est-ce que le format du livre aujourd'hui est pensé comme la question sous-jacente plutôt, c'est pourquoi ce contenu-là ne pas le créer sous un format digital, par exemple, et pas forcément tu poses une caméra et puis tu parles comme un youtubeur, hein, mais peut-être.
Non, mais attends, en 10 secondes, tu le vends à une personne et il est déjà le livre, il est piraté, mais en 10 secondes, t'es piraté et tu l'as dans le cul, tu peux plus rien vendre. Donc, de toute manière, c'est pas pour rien. Avant, tous les champions, ils avaient leur DVD. Tous les champions sortaient leurs DVD d'entraînement, et puis les DVD, ils ont mis à être piratés, et le marché, il s'est arrêté net.
Mais vous allez le sortir en digital, le livre aussi, en e-book, là.
Mais c'est pas un bon plan, parce que c'est plus facile à repomper en e-book, et deux, ça se vend pas du tout, les e-books. On gagne 3-4 euros.
Ouais, mais vous le sortez pas en e-book, alors.
Euros par an sur les e-books, en plus, c'est de la merde. Les e-books que Vigo sort. Donc, tous les mecs s'en plaignent parce qu'ils, je sais pas, enfin, je l'ai jamais vu, mais ils peuvent pas agrandir ou, enfin, je sais pas ce qu'il y a, mais les versions e-books sont merdiques en plus. Donc,
Ok, mais tu vois, si je me posais cette question, c'est parce que si exactement le même contenu était vendu sous format digital en vidéo ou en audio ou peu importe sur une plateforme d'hébergement, je pense que ça serait, enfin, en gros, serait perçu comme quelque chose de quasiment gratuit. Alors que je pense que si le format est associé au prix psychologiquement,
ouais, je suis bien d'accord, mais bon, après, les mecs, s'ils sont cons, ils sont cons, quoi. Si tu comprends pas, attends. Toutes les semaines, j'ai des mecs, quand je parle des livres, des mecs, mais un livre, ça s'achète où? Je veux bien que, j'imagine que, bon, tu sais pas, t'as jamais acheté de livre, tu sais pas. Il y a Google, tu peux chercher où ça s'achète des livres. Okay. Donc, et après, si les mecs sont cons, en disant non, le format, ça me plaît pas, la couleur de la couverture, oh là là, bah, tant pis, hein, c'est pas pour eux. Mais moi, je te dis, je parle à moi, un mec qu'on veut, et qui j'aurais lu. Si j'avais eu ces bouquins quand j'avais commencé, je peux te dire que j'aurais fait le plus d'euros des hommes. Parce que j'ai commencé avec une vraie merde. Je te dis, entraîner le coup, passer plus de temps à entraîner le coup que les biceps.
Le coup, ben au moins ça te fait un coup de taureau, écoute.
Je sais pas. Tu sais, attends, c'était comme, fallait faire ça pour entraîner le coup. Donc, c'est la même chose. Hein. Tu vois, c'était pas non plus d'une efficacité redoutable. Quoi.
Est-ce qu'il y a un livre
tout que... ce que t'avais, c'est...
Oui, vas-y.
Non, mais tout ce que tu disais, ça, t'avais mal au cervical. Vas-y, ouais.
Non, je voulais te demander, parce que je pose toujours cette dernière question. Il y en a une que j'ai zappée d'ailleurs, que je vais quand même te demander. Si t'as eu un modèle ou un mentor, et si... Enfin, un mentor. Si t'as eu un modèle, toi, ou que t'as toujours un modèle, quelqu'un que tu que t'écoutes les écrits, que tu... Quel est-il?
Ben non, comme je t'ai dit, non, enfin, j'écoute les écrits, non. Non, parce que, tu vois, si je veux en savoir plus sur TAM, je regarde les thunes TAM. Si je veux en voir plus sur le collagène, c'est Barre. Et puis, tu vois, si je veux Eldora, ce sera Voyer. Donc, non, je vais toujours chercher l'information le plus possible à la source et le plus possible à celui qui la connaît, quoi. Mais si j'ai eu un modèle, alors la personne qui m'a aidé, c'est Dan Duquesne, qui est le gourou, enfin le premier gourou, le seul vrai gourou, et qui m'a donné trois informations. Quand je lui posais une question, il me disait la réponse est quelque part, trouve-la. C'est lui qui m'a dit que Internet existait, alors que j'étais loin de me dire quelque chose comme Internet pouvait exister et personne ne le savait à l'époque. Et puis qui m'a parlé de Medline, de ce qu'on appelle PubMed. Donc PubMed. C'était les trois informations qui ont changé ma vie.
Et d'ailleurs, cette phrase me rappelle quelqu'un. Quand tu dis, si tu veux l'information, tu peux la trouver. Ça me rappelle quelqu'un.
Oui, enfin non, mais elle est quelque part, trouve-la. Alors au début, j'étais pas content, mais...
Ouais, mais bon, c'est ce qui t'a permis d'écrire ces bouquins, d'en savoir autant.
Bah ou non, mais de trouver un métier déjà, de trouver un métier qui me passionne et qui me fait vivre. Donc juste une phrase, tu vois.
Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué conseil. Ouais, excuse-moi.
Un livre, je lis pas de livre. Je te dis si je veux, si je veux des informations sur Eldoa, je vais voir Guy Voyer. Je suis pas sûr qu'il ait écrit un livre. Si je veux des informations sur TAM, il n'y a pas de livre, je vais à ce qu'il publie au jour le jour. Et puis, je ne sais plus ce que je t'ai donné. Ah oui, si je veux du collagène, compte barre, il n'a pas écrit de livre. Et donc, je regarde ses publications, entre autres, d'ailleurs, pas que... Donc, non, je ne lis pas de livre.
Tu ne lis pas de romans
Non, mais non plus, ça ne me passionne pas. Déjà, je lis assez de publications. Tu vois, quand je veux vraiment me relaxer, je regarde la télé. Parce que lire, je fais ça toute la journée, donc c'est, tu vois.
Ok.
C'est
ben
un
oui,
peu comme une minute, elle ramène pas de travail à la maison.
Je t'ai pas demandé tout à l'heure, mais en fait, tes journées, elles consistent surtout à faire de la recherche d'informations dans des livres.
Ah, c'est ça, et puis d'écrire.
D'écrire. Aujourd'hui, t'écris plus pour des articles, t'écris plus pour des magazines, t'écris pour Nutrimus.
Ah non, il y a plus de magazines, ça n'existe plus, les magazines.
Les blogs, enfin blogs, les sites Nutrimus.
Ben non, parce que tu vois, mon site, mon provider, il a été ruiné à cause de mon grand succès. Mon provider a fait faillite. Donc, non, en fait, je passe mes journées à chercher des informations, à justement glaner des informations.
Ok.
Mais dans les périodiques médicaux, donc les dernières sorties, parce que si les livres scientifiques, quand tu les as, l'information, au mieux, elle a 5 ans de retard. Déjà, quand tu lis les périodiques scientifiques, t'as quoi, 6 mois, 1 an de retard. Par rapport à la connaissance
actuelle.
Donc, les livres, c'est le dernier endroit où j'irai chercher.
Bon, eh ben, très bien. Hein. Je pense qu'on a fait un joli tour. Si on veut suivre ce que tu fais, ben, alors t'as les livres, je mettrai les trois en description. Hein. De toute façon, ce sont des livres qui ont été mentionnés par au moins 70 à 80% de mes précédents invités sur le podcast. Donc, ils sont quasiment tout le temps dans la barre de description. Je mettrai donc les trois références, méthode de la vie 1, 2, 3.
On a un livre de musculation pour les sportifs, si t'as des sportifs qui veulent du non conventionnel et pas des méthodes qui ont 20 ou 30 ans de retard ou qui ont plus d'âge.
Des choses un petit peu à jour.
Ouais, en plus. Ouais, j'espère qu'on est plus qu'à jour. Ouais. J'essaye toujours d'être un peu en avance pour que le livre il ait quand même une certaine durée de vie.
Ok. Où c'est que tu conseilles aux gens de suivre ton actualité, YouTube, Instagram?
J'ai pas d'actualité, j'ai pas une actualité fracassante.
Mais ta grosse actualité de YouTuber fitness.
Non mais je suis pas du genre le mec qui va acheter un paquet de nouilles, t'as l'impression que c'est les aventures d'Indiana Jones.
Tu fais pas de vlog. Tu devrais faire des vlogs, je suis sûr ça intéresserait les gens.
Je fais plus passer l'information des autres, les trucs scientifiques, bon des fois des trucs un peu marrants, je sais pas ce que j'ai mis. Des fois, je me moque un peu, tu vois, tu sais, ce qu'on voit beaucoup maintenant, c'est les, par exemple, hein, c'est les annonces Le Bon Coin, tu sais, les mecs qui revendent du mobilier urbain sur Le Bon Coin sous couvert que c'est de quoi s'entraîner. Enfin, ils volent le mobilier urbain dans la rue et le revendent sur Le Bon Coin.
T'as un truc de 25 kilos, là, que t'as posté sur Instagram.
Ouais, c'est des blocs, tu sais, c'est pour tenir les panneaux ou des trucs comme ça pour pas qu'ils se cassent la gueule.
Mais les mecs qui sont bons dans le business, quoi.
Il y a de la pertinence, enfin, il y a comme ça, et puis des informations un peu scientifiques, ce qui sort, etc.
Donc, surtout YouTube, Instagram, Facebook, t'avais été banni, je crois.
Hein. Ben oui, banni. Enfin, c'est pas qu'ils m'ont viré, c'est qu'il y a des mecs qui se sont ligués pour me faire virer en disant que Michael Gundil, c'était pas mon vrai nom, donc, ça viole la charte Facebook.
Ah, et tu peux pas mettre en...
arrangé pour me faire virer. Ben non, mais si je mets mon vrai nom, personne ne me connaît sous mon nom. Après, les mecs vont se demander pourquoi il y a les deux noms. Là, faut... c'est mort.
Comment c'est venu ça, Michael Gundil? Parce que c'est hyper à l'américaine. C'est comme Johnny Hallyday, en fait.
Quand j'ai commencé à écrire dans le magazine de bodybuilding en France, le patron donc qui avait au moins 20 ans dans le métier, il m'a dit: vous voulez écrire sous votre nom ou sous un pseudo? Ben, je lui dis, je sais pas, c'est moi, j'en savais rien, j'arrivais, quoi, j'avais 20 ans. Je lui dis, bah, sous mon nom. Ben, il me dit, sous pseudo c'est mieux. Je lui dis, mec, ça fait 20 ans qu'il est dans le truc, s'il me dit qu'un pseudo c'est mieux, j'ai trouvé, c'est l'anagramme d'un mec qui m'a aidé indirectement. Il le sait pas, il est mort aujourd'hui, mais qui m'a vachement aidé. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour le raconter. Donc j'ai pris l'anagramme de son nom et puis je me suis dit, voilà, c'est ça, voilà mon pseudo. Mais après, une fois que t'as le pseudo, tu peux pas en changer tous les...
Bah non.
Parce que les mecs après ils disent, ouais, il se prend pour machin, mais je peux pas changer mon pseudo comme ça. T'imagines la confusion que ça créerait. Maintenant j'ai une marque, je suis obligé de m'y tenir, quoi.
Ouais, puis non, mais
c'est pas pour me cacher, pour faire je sais pas quel. Tu vois, tu peux inventer tous les trucs complotistes. Ça s'est passé au milieu des années 90. Un mec m'a dit que c'était mieux d'écrire sous un pseudo. J'ai pris un pseudo.
Est-ce que je peux connaître ton vrai nom ou tu préfères garder privé?
Bah, c'est Jérôme, tu le connais.
Oui, non, mais ton prénom.
Bah, je pourrais le donner, mais. Pas trop, parce qu'il y avait après des mecs qui font des recherches d'adresses, il y a des mecs qui ont publié des adresses, qui ont publié des photos de ma maison.
Ah ouais, putain, ça doit faire flipper ça.
Vu le nombre de débiles, vu le nombre de débiles qu'il y a sur internet, je peux te dire que, surtout, je te dis, la dernière chose que je veux faire, c'est me mettre en avant, ou etc., raconter ma vie, m'inventer un personnage. Tout ce que je donne, c'est des informations, point. je suis pas du tout, c'est pour ça que je suis pas du tout en phase avec ce qu'on appelle le youtubeur classique.
Ah bah ça, c'est l'inversion. Ça c'est sûr, ça se voit sur tes contenus, mais ouais, c'est l'information.
Voilà, c'est de l'information utile qui peut être utile aux gens. C'est tout ce qui m'intéresse. Me mettre en avant, ça m'intéresse pas du tout. Tu vois, c'est toi qui m'as demandé la cam, mais moi je préfère faire des podcasts sans mettre la cam, par exemple.
Ouais, bah désormais j'essaie de mettre les vidéos parce qu'en fait ceux qui regardent sur YouTube ils trouvent ça un petit peu plus sympa d'avoir la vidéo.
Bah ouais, mais il ferait mieux d'écouter ce qu'on dit plutôt que de regarder nos gueules. Donc.
Et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est pour ça que je redirige tout le monde à chaque fois. YouTube va pas m'aimer pour ça, mais je redirige tout le monde à écouter les podcasts sur les applications de podcasts parce qu'elles sont faites pour ça. Donc Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, enfin No Minute aussi, qui en fait vous les mettez dans vos oreilles, vous faites autre chose ou vous marchez. Vous n'importe quoi et vous avez juste, vous n'avez pas besoin de rester devant un écran comme ça sur l'ordinateur.
Moi, je suis un enfant de la radio plus que de la télé.
Ben, l'information, voilà. Bon, je pense que là, on va être sur une vidéo de 3 heures. Ça s'écoute, quoi. Ça s'écoute. On reste pas devant. Mais bon, ceux qui préfèrent regarder nos visages pour parler, pourquoi pas.
Ceux qui ont regardé nos gueules jusqu'à là, on vous emmerde. Voilà. T'as bien fait de rester, on t'emmerde.
Non, merci. Non, moi je vous emmerde pas. Moi je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout, d'avoir nous avoir regardé jusque là. Et attends, truc que je voulais dire aussi, c'est, tu vois, si aussi je décide de mettre la vidéo sur YouTube, c'est parce que je sais qu'il y a une espèce de frein à l'audio pour certains. Et que peut-être une fois la vidéo, ça va davantage toucher plus de monde et ça va permettre à des personnes qui ne seraient pas du tout au fait des podcasts et qui ne seraient pas habitués à finalement s'y plonger. Donc tu vois, c'est passer par un système d'un petit peu ou de modernisation, enfin pas de modernisation, mais essayer de m'adapter à ce que la psychologie veut pour ensuite transmettre l'information et faire passer le bon message, tu vois.
Ouais, façon, c'est comme je te disais tout à l'heure, moi je lis pas son livre parce que j'aime pas la couleur de sa couverture, quoi. Ou tiens, j'aime pas sa couverture carrément, donc je lis pas le livre.
Toi, t'es radical. C'est...
Ah bah ouais, moi j'ai une approche différente. C'est à toi d'aller chercher l'information plutôt que d'attendre qu'elle vienne dans ton bec. Donc j'ai eu une approche complètement différente des temps modernes. Mais enfin, des temps modernes, d'après moi, pour les gens qui sont pas très malins, parce que l'élite, d'après moi, c'est elle se comporte pas en mouton, c'est elle qui va chercher l'info et qui s'informe et qui.
Bon, ben en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez de ça. Est-ce qu'il vaut mieux essayer d'adapter son. Je deviens un youtubeur, c'est une catastrophe.
Ah, voilà, c'est ça, ouais.
Ouais, je demande des avis en commentaire.
Vous demandez, mais de toute manière, plus t'as de commentaires, plus t'as de vues, donc c'est.
Non, mais parce que en plus, je pense que sur ces 3 heures de discussion, il y a eu tellement de choses intéressantes qui peuvent servir à tellement de personnes que, au final, avoir des commentaires et permettre d'avoir un peu plus de visibilité, oui, ça sert le podcast, oui, ça sert le ce que je fais.
Mais malheureusement,
ça sert aussi tous ceux qui vont le découvrir grâce à ces petits mécanismes au final. Donc voilà, si vous avez apprécié, alors déjà allez sur les applications de podcast, restez pas forcément sur YouTube, dites ce que vous en pensez. Si vous écoutez sur ces épisodes sur Apple, sur Spotify, le retour que vous pouvez me faire directement, c'est sur contact@biomecaniquepodcast.com, qui est l'adresse email que je vais recevoir directement, si vous voulez me faire un feedback privé. Sinon, si vous avez apprécié la discussion que j'ai eue aujourd'hui avec Jérôme et toutes les autres discussions que je peux avoir dans ce podcast, le mieux c'est un petit commentaire sur Apple Podcast, qui est la plateforme par défaut d'Apple, qui permet de laisser des commentaires et de laisser des notes et partager ces épisodes, hein. Faites circuler le lien de la vidéo YouTube à vos amis sur votre Facebook, prenez une capture d'écran et partagez-la sur Instagram en story par exemple. Voilà, ça c'est des méthodes un petit peu modernes qui fonctionnent bien pour faire connaître le podcast. Sur Spotify, vous pouvez directement aller dans paramètres, partager en story sur votre Instagram.
C'est compliqué.
Eh ben, c'est de moins en moins compliqué. T'as 3 boutons pour partager et tout, comme ça, tous tes contacts peuvent voir un petit peu la recommandation. Et en fait, ça aide. Ici, on grossit et puis on a des invités qualitatifs comme ça et on essaie de partager des informations. Au-delà de le podcast reste un truc qui, je pense, est aligné avec ce que tu proposes aussi, c'est qu'on est très peu dans le visu, dans le partage d'infos privées.
Ou dans le débat, pire, c'est le débat.
Le débat inutile.
Les débats aujourd'hui.
Exactement.
Enfin, c'est pas inutile, mais le mec s'engueule et puis t'as la.
Ben, le problème du débat, c'est qu'il n'y a jamais quelqu'un qui ressort en disant putain, t'as tellement raison, je suis convaincu.
C'est pas ça, j'ai jamais vu un débat où la vérité jaillit et puis.
Surtout les débats.
Tout d'un coup, t'as la révélation, quoi.
Surtout les débats en commentaire YouTube, ouais. Les mecs qui s'engueulent. Ça, c'est drôle, les mecs qui s'engueulent, ça m'est arrivé sur quelques-unes des vidéos.
Ça fait des vues, ça fait beaucoup plus de vues. Hein.
C'est tellement drôle, les mecs qui s'engueulent sous les commentaires. Pourquoi ils font ça?
Moi, je mets n'importe quelle photo. Suffit qu'elle reste un peu longtemps, les mecs finissent par s'engueuler. Mais n'importe quelle photo. Tu pourrais mettre la photo d'un chien, la photo d'une bonne femme. Il y a toujours, si ça reste assez longtemps, les mecs finissent par s'engueuler.
Ouais, c'est triste.
Donc,
c'est comme ça.
Il y a des problèmes avec le moment. Ouais.
Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu voudrais rajouter avant qu'on quitte?
Non, ben merci à toi.
Ben merci à toi, surtout. C'était super, c'était génial. Je sais pas si on a dépassé le podcast de la vie, mais c'est possible. On est à 3 heures. Voilà. Donc, mais je crois qu'on a tout dit. Merci pour votre fidélité d'écouter chaque semaine le podcast. Voilà, je continue à mettre des notes, à partager. Inscrivez-vous à la lettre biomécanique, la newsletter du podcast, qui est en lien en description. Si vous voulez plus d'infos dessus, ben cliquez dessus. Tout est écrit sur la page. Je vais pas en parler davantage. On se retrouve lundi prochain. Merci Jérôme, merci Michael Gundil d'être passé. J'espère qu'on te retrouvera peut-être prochainement dans un futur épisode. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, merci à tous.
Ben, salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique, je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.